La Révolution française, c'est une histoire de jeunes gens, ou de jeunes hommes. Pensez que Robespierre, quand on va le tuer, il a 36 ans. Pensez que Danton avait 35 ans, que Camille Desmoulins avait 33 ans, et que Saint-Just avait 27 ans lorsqu'ils sont morts. Alors regardons notre particulier qui nous intéresse, nous, c'est-à-dire Robespierre, peu de choses à dire sur son enfance et son adolescence. Sinon que, il n'a pas eu d'affection, presque pas autour de lui, il avait 6 ans quand sa mère est morte. 2 ans plus tard, son père disparaît, c'était un avocat à Arras. Vraiment, il disparaît, on ne sait pas où il est. Il va reparaître 2 ans plus tard, un instant, enfin quelques semaines, repartir, et il mourra en 1777, à Munich, où il avait ouvert une petite école de français. Alors, lui et Robespierre, qui a un frère et une sœur, sont pris en charge par les grands-parents maternels, et ces grands-parents maternels qui ne veulent pas s'embarrasser de lui, le placent le plus vite possible grâce à des bourses ecclésiastiques, d'abord comme interne au lycée d'Arras, au collège d'Arras, et ensuite au lycée Louis-le-Grand, où il va travailler plus de 10 ans. Il est très bon élève, il est estimé, et le voilà qui va sortir d'Arras, prendre la suite, entre guillemets, de son père, qui avait donc disparu depuis bien des années, et il va être jeune avocat d'Arras, où il se débrouille pas mal. Ce n'est pas un personnage qui attire sur lui l'attention. Il est bien élevé, il sait danser, il écrit des madrigaux comme tout le monde, il fait même partie d'une société littéraire qu'on appelait les Rosati, et qui, au petit pied, serait un peu comparable aux Rotary d'aujourd'hui. Mais, en 1789, alors qu'il a 31 ans, voilà les états généraux, il va se présenter aux états généraux, et en particulier, il va lancer un tract que je tiens à lire, du moins une minute, parce que personne ne parlait comme lui. Voici ce qu'il ose écrire. La plus grande partie de nos contemporains est réduite par un état d'indigence et d'avilissement au point de ne plus pouvoir penser à autre chose qu'aux moyens immédiats de survivre, incapables qu'ils sont de réfléchir aux causes de leur misère et aux droits que la nature leur a donnés. Je ne sais pas si vous avez remarqué les mots, mais si nous employons un vocabulaire contemporain, disons qu'il y a là de la dynamite. Pourquoi de la dynamite? Parce que, face au problème de la misère, Robespierre ne dit pas, que voulez-vous, c'est la fatalité, il faut faire ce qu'on peut. Mais il dit carrément, il faut que les gens réfléchissent aux causes de leur misère et se rendre compte qu'ils sont des exploités. C'est pourquoi j'ai employé ce mot violent, mais exact, je crois, de dynamisme. C'est un homme révolutionnaire. C'est un homme qui, comme on dirait aujourd'hui, avec un mot qui ne me satisfait pas tout à fait, il essaye de conscientiser, donner conscience au prolétariat. Alors regardons un petit peu ce qui va se passer. Robespierre à la constituante, puisque c'est les états généraux qui vont devenir une constituante, il ne se fait pas remarquer, il n'est pas là au moment de la prise de la Bastille, simplement pendant la journée du 5 octobre, vous vous rappelez peut-être que des femmes parties de Paris se dirigent vers Versailles parce qu'ils veulent y prendre le roi et le ramener de force à Paris, il va insister auprès de ses collègues de l'Assemblée constituante, dite constituante, pour qu'ils reçoivent Maillard. Ça vous dit rien aujourd'hui. Maillard, c'est un bonhomme qui s'était frère marqué très activement dans la prise de la Bastille, où il y avait 97 tués quand même. Et puis, ce Maillard était entouré d'une légende noire, il prétendait que c'était un homme très dangereux. Alors la constituante n'avait pas envie de recevoir à sa barre ce personnage, et le tout jeune Robespierre, qui ne se fait pas remarquer jusqu'alors, dit, il faut écouter ce qu'a à nous dire Maillard, et il le fait recevoir. Bon. Mais maintenant, je voudrais que nous regardions ensemble la signification réelle de cette révolution. Et là, je suis obligé, une fois de plus, de prendre position contre Michelet, qui est un homme que je respecte, et je trouve en effet que c'est un grand écrivain. Mais du point de vue historique, il est vraiment très contestable. Pensez donc que Michelet va oser nous affirmer ceci. Il faut savoir à quel point les idées d'intérêt sont restées la révolution secondaire. Oui, la révolution française fut désintéressée, c'est là son côté sublime. C'est très bien dit, mais ça ne correspond absolument pas à la vérité. Comment pas d'histoire d'intérêt? Mais c'est avant tout une histoire d'argent. Étant donné que l'État est en faillite, qu'il est au bord de la banqueroute, et que les rentiers de l'État sont affolés. Il faudra trouver un moyen de faire face à la banqueroute. Deuxièmement, rendons-nous bien compte de ceci. Qu'il y avait une classe nouvelle qui a fait son apparition au cours du XVIIIe siècle. Il y avait l'ancienne aristocratie, la richesse, si vous voulez, immobilière, c'est-à-dire les châteaux et les terres. Et puis, il y avait une richesse, qu'on appellera la richesse mobilière, qui était faite des grandes affaires. Ces grandes affaires se développent extraordinairement dans le XVIIIe siècle, à savoir le grand commerce, déjà une certaine grande industrie, déjà des groupements de prolétaires, aussi des assurances, on l'oublie, il y avait des assurances sur la vie qui marchaient très bien. Enfin, cette nouvelle classe, qui est une bourgeoisie, entend ne pas laisser les rênes de l'État entre les mains exclusivement de la noblesse. Alors nous pourrions dire, c'est un mot que j'ai risqué, mais que je répète parce que je le crois vrai, nous assistons à une bagarre de nantis, à une rixe de possédants entre nobles et grands bourgeois, bourgeois riches, sur le dos de ce que Victor Hugo appellera la cariatide. La cariatide, c'est la petite foule, le petit peuple. J'ai une réflexion de Voltaire, que j'ai envie de vous citer maintenant, quitte à l'apprendre plus tard. Voltaire, dans l'essai sur les mœurs, avait dit « Une cité bien organisée est celle où le petit nombre fait travailler, vous entendez bien, fait travailler le grand nombre et nourri par lui, et le gouverne. » Cette morale d'entretenue, c'est exactement la morale de ceux qui sont les grands conducteurs de cette révolution, sauf Robespierre. Ne pas toucher à la cariatide, faire qu'elle soit bien obéissante, alors que Robespierre, précisément, va être le protestataire. Pendant la Constituante, ce jeune député va uniquement et presque, oui, constamment et presque uniquement s'occuper du triple scandale que lui fait éprouver la façon dont on se conduit à l'égard de la Déclaration des droits de l'homme. Aujourd'hui encore, on nous dit la Déclaration des droits de l'homme, 24 août 1789, c'est extraordinaire, enfin, personne n'avait songé à ça. Si, si, les Américains l'avaient fait. Notre Déclaration des droits de l'homme est en partie copiée sur la Déclaration des Américains en 1776. Mais dans cette Déclaration des droits de l'homme, il y avait un article primitif, je crois même, c'est l'article 1. Tout homme, tous les hommes, naissent et demeurent égaux et libres, égaux en droit et libres. Et bien Robespierre s'aperçoit qu'il y a un démenti, un triple démenti et outrageant à l'égard de cet engagement. Je rappelle, tout homme, tous les hommes, naissent et demeurent libres et égaux en droit. Libres. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait des Noirs pourtant? Il y avait des Noirs dans nos colonies étaient plus grand nombre, hein. Plus encore, non, c'était les Antilles. Mais là, il y avait un lobby colonial très puissant et qui voulait surtout qu'on ne touchât pas à l'esclavage là-bas et qu'on laissât esclaves des gens qui nourrissaient ce fameux lobby colonial. Qui, enfin, mais par exemple, la famille Noailles, dans laquelle est entré par mariage un homme comme Lafayette. Il y avait des gens qui, en France, bénéficiaient considérablement du point de vue argent de l'esclavage dans les Noirs, des Noirs. Eh bien, ça, là, on n'en parle plus. Il y a une infraction élémentaire à la Déclaration des droits de l'homme. Deuxièmement, sur le droit de vote, c'est Sieyès, quelques-uns appelaient Sieyès, mais je sais qu'ils ont prononcé, que lui-même prononçait Sieyès, un ancien prêtre. C'est Sieyès qui a inventé pour le droit de vote une distinction. Comme dit pour une fois très justement Michelet, il y avait les citoyens, tout le monde était citoyen, mais il y en avait d'autres qui étaient moins citoyens que d'autres. C'est en effet Sieyès qui avait dit que pour avoir le droit de vote, il fallait faire une distinction qui aurait les actifs, puis il n'osait pas dire les passifs, il disait les actifs et les non-actifs. Quelle était donc la distinction? Comment faisait-on? Quel était le critère? Ben ça va de soi, l'argent. Alors n'était admis au droit de vote que les gens qui payaient une imposition au moins égale aux trois journées de travail, au prix de trois journées de travail. Ce qui signifie que pour être, comme disait Sieyès, actionnaire de la Maison France, c'est une littérature très contemporaine, il faut avoir de l'argent. Eh bien, Robespierre va pousser un grand cri et écrire en particulier ceci. « Sois riche, à quelque prix que ce soit, ou tu ne seras rien dans la cité. » Et puis, troisièmement, le troisième scandale, c'était la garde nationale. Là, il faut que je vous rappelle un peu les faits réels. Le roi avait cédé, peu à peu, on le voyait qui reculait. Et puis, le 12 juillet, poussé par sa femme du reste, il avait décidé de chasser Necker, qui représentait les idées nouvelles, et de constituer un gouvernement, comme on dirait aujourd'hui, de droite, avec le baron de Breteuil. Necker est renvoyé, ça fait du tumulte dans Paris, le roi lance un régiment allemand, le royal allemand, qui va faire quelques bousculades sur les Champs-Élysées, enfin c'est pas grave. Néanmoins, on voit que le roi est décidé maintenant à mettre un frein à la révolution. Alors, il s'était déjà constitué une municipalité avec ses affairistes, avec M. Bailly, par exemple, maire de Paris, qui est un personnage considérable, Lafayette aussi. Cette municipalité dit, c'est pas possible, il faut faire reculer le roi, on ne peut le faire reculer qu'en lui faisant peur. Alors, c'est la municipalité de Paris qui va distribuer, suivez-moi bien, qui va distribuer des armes aux petites gens. Ces petites gens à qui on va refuser le droit de vote, hein, mais on leur demande d'aller se faire tuer devant la Bastille, il y a 97 tués, hein, 97 tués, qui sont tous des petites gens. Le roi va être effrayé, le roi va reculer, et on pourra reprendre la révolution. Mais, On est tellement inquiet dans cette bourgeoisie d'avoir fait appel au petit peuple en se disant « Attention, s'ils gardent leurs fusils, c'est un enjeu pour nous ». Alors, à partir du 15 juillet, le lendemain de la prise de la Bastille, la municipalité annonce qu'elle donnera 40 sous à quiconque rapportera son fusil. Attention, qu'est-ce qu'ils gagnaient, les gens, à ce moment-là? Ben, les jours où ils travaillaient, vous savez que c'était pas tous les jours, parce qu'il y avait non seulement le dimanche, mais des quantités de fêtes chômées, ils gagnaient environ 20 sols, quoi, disons 20 sous par jour. Une livre ou 20 sous, parce qu'on disait francs ou livres. Eh ben, donner à ceux qui rapportent leur fusil 2 francs, 40 sous, c'est intéressant. Alors les fusils rentrent abondamment. Mais on se dit dans le même, ce serait très ennuyeux que ces gens aient pris l'habitude d'avoir un fusil. Bien entendu, ils l'ont gentiment ramené, mais enfin, on sait qu'ils sont capables d'être dangereux avec un fusil. Alors, on avait créé d'abord ce qu'on appelle une milice bourgeoise, et puis le nom paraîtrait un peu trop nu. On appellera ça garde nationale. Et cette première garde nationale qui est faite pour intimider le pouvoir, pour lutter contre l'armée du roi, l'armée par exemple le roi allemand, pour avoir une milice plébéienne, milice du peuple, très rapidement, cette milice, sous l'apparence de la garde nationale, va exclure tous ceux qui n'ont pas le droit de vote. On ne peut pas le faire brutalement, parce que ça serait invisible, alors on va commencer de manière oblique. On va commencer par dire, pour être de la garde nationale, il faut payer son uniforme. L'uniforme coûte 80 livres, 80 francs, pour des gens qui gagnent, quand ils travaillent, 1 franc par jour, vous vous rendez bien compte que c'est une exclusion automatique. Par le moyen d'uniforme, on s'arrange pour que disparaisse cette présence des indésirables dans la garde nationale. Le 14 juillet 90, ça avait été la fédération. Il y a encore un thème banal là-dessus qui dit que la fédération était un consensus national, selon l'expression contemporaine, que c'était l'unité française, que dans cette grande fête du Champ de Mars, tout le monde se sentait épris de même sentiment, que le roi était très gentil, que le roi vient prendre la parole, prête serment et dit qu'il est tout à fait prêt à servir l'idée nouvelle. C'est pas vrai. En réalité, qu'est-ce qui s'est donc passé ce 14 juillet, que l'on appelle fête de l'unité nationale? Ce sont des délégations de la garde nationale de province, parce que dans toutes les villes de province, c'était organisé, à l'imitation de Paris, une garde nationale bourgeoise. C'est des délégations de ces gardes nationales qui viennent sur le Champ de Mars et qui montrent à la population parisienne, c'est nous qui avons les fusils, c'est nous qui avons les canons. Et là encore, Robespierre avait dit la vérité, parce que c'est un homme lucide, et il avait dit, tout citoyen armé est maître de celui qui ne l'est pas. Vous voulez donc diviser la nation en deux classes, dont l'une ne sera armée que pour contenir l'autre. Là, c'est exactement ça. Si l'on se reporte à ce qui se passe presque un an après, le 17 juillet 91, sur ce même emplacement du Champ de Mars. Ben, qu'est-ce qui arrive donc? Ben, entre-temps, s'était produit un événement considérable que vous connaissez très bien. C'est la fuite du roi le 20-21, nuit du 20-21 juin 91. Le roi avait menti, et il avouera dans sa correspondance, il ne peut pas faire autrement, Marie-Antoinette dit aussi, ces gens-là qui sont des gueux, ils sont des gueux, les gens de la réforme, on ne peut pas s'opposer à eux directement, alors on va faire croire qu'on leur obéit, mais nous allons aller chercher des troupes. Alors l'idée du roi, c'est pas du tout d'amener l'ennemi, l'extérieur, pas du tout. C'est d'amener des troupes fidèles, en particulier des mercenaires. Vous savez bien que dans l'ancien régime, il y avait à côté des troupes françaises, des quantités de troupes qui ne parlaient pas français, qui étaient donc utilisables pour n'importe quoi. Appelons ça des robots, si vous voulez, appelons ça une légion étrangère. Alors le roi va chercher à Montmédy, sur sol français, des régiments étrangers, commandés par le général Bouillet, et avec ce général, il a l'intention de revenir sur Paris, armé du... C'est entouré d'une puissante armée pour contraindre les gens à revenir à 1688, quoi, rétablir son absolutisme. Ça veut aussi que ça a échoué, puisqu'il a été arrêté à Varennes. Et voilà que les meneurs du jeu sont extrêmement ennuyés de voir que le roi s'est mis dans un mauvais cas. Il a du reste écrit, avec beaucoup de loyauté, une lettre au président de l'Assemblée, ce roi. Il a dit, écoutez, non, je ne suis plus libre, aux Tuileries, je suis comme une sorte de prisonnier, je veux rétablir l'ordre, par conséquent, je m'en vais. Mais justement, je viens de vous le dire, les meneurs de jeu sont très ennuyés parce que la monarchie, pour eux, représente quelque chose d'essentiel, une espèce de palladium, de sauvegarde, enfin de garantie plus ou moins mythique de la propriété. Et la propriété, c'est la grande question. Une dame comme Madame de Staël, vous savez qui est la fille Necker, a passé les yeux dans la poche. Et Madame Necker, Mademoiselle Necker, dira en 1816, le drame de 89, c'est que, je sais par cœur, vous savez, les gens de la classe ouvrière s'imaginèrent que le joug de la disparité des fortunes allait cesser de peser sur eux. Alors ces petites gens, hein, que par bonheur on ne vote pas et qui votent pas et qu'on admet pas la garde nationale, il faut les surveiller en permanence. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, figurez-vous que la majorité de la constituante va s'engager dans un mensonge incroyable, suggéré par Barnave. Barnave est un homme qui est de la clientèle des Perrier, des industriels de Grenoble, de l'Isère, et surtout par Lafayette. On va affirmer, vous m'entendez bien, on va affirmer que le roi a été enlevé. C'est colossal comme affirmation, puisque le roi a écrit un texte où il dit « je m'enfuis ». Non, vous savez, c'est pas sa faute, il a été enlevé par Bouillet. Et pour protéger ce roi qui est très menacé, évidemment, parce que des tas de gens n'aiment pas ce qu'il a fait, on va déclarer sa personne inviolable. Alors c'est là où Robespierre trouve ça que c'est un peu rude. Il dit « mais enfin, c'est extraordinaire ce que vous venez de faire. Je crois que vous venez de décider qu'il y a un Français qui en aucun cas ne saurait être puni ». Et il dit encore, ironique et méchant, j'ai du mal comprendre. Vous ne sauriez, vous, représentant du peuple, me calomnier ainsi vous-même. Vous n'avez pas pu décider qu'il y a en France un homme au-dessus des lois. Mais si, on a décidé qu'il serait au-dessus des lois, et par conséquent, on fait savoir aux gens qui protestent, aux passifs, quoi, qui voudraient se mêler de ce qui ne les regarde pas, et qui ont demandé qu'on vienne signer un manifeste sur le Champ de Mars. Des feuilles sont préparées, il y a de l'encre, il y a des feuilles de papier, il y a de quoi écrire, pour demander la déchéance du roi. C'est extrêmement grave, hein. Ce sont des gens qui sont exclus de la vie nationale, puisqu'on a dit, vous ne votez pas, vous êtes les passifs, vous ne comptez pas. Et voilà que ces passifs se mettent à déclarer, à réclamer la déchéance du roi. Alors on va leur tirer dessus. Et brusquement, la municipalité de Paris, c'est-à-dire Bailly et Lafayette, ont décidé d'arborer le drapeau rouge à l'hôtel de ville. Vous savez, aujourd'hui, drapeau rouge, on pense révolution. Mais il faut bien savoir que le drapeau rouge, autrefois, représentait la loi martiale. Et lorsque Lamartine, le 25 février 88, va refuser le drapeau rouge, il le refusera en disant « le drapeau rouge n'a jamais fait que le tour du Champ de Mars, tandis que le drapeau tricolore, etc., fait le tour de l'Europe, soi-disant. » Oui. Attention, le drapeau rouge en 1791, ça signifie loi martiale, ce qui veut dire sommation, et si les gens n'obéissent pas à la sommation, on leur tirera dessus. Eh bien, il y avait une foule, c'était un dimanche, le 17 juillet, il y avait une foule, des petites gens, des pauvres gens, qui gravissaient, il y avait un grand escalier, au-dessus duquel il y avait l'hôtel du Champ de Mars, l'hôtel de la Fédération, et les gens signaient depuis le début du matin. Et puis, tout d'un coup, on leur annonce, attention, il y a la loi, on va vous tirer dessus. Eh bien, ça, on ne sait pas exactement ce qui s'est produit, sans doute on ne le saura jamais. Il y a eu un coup de feu. Tiré par qui, on ne sait pas. Toujours est-il que la garde nationale, qui est là en masse, va répondre par un feu roulant, hein, feu roulant sur le peuple. Le gouvernement dira, il y a eu 12 tués, mais c'est évidemment un mensonge. Robespierre, qui exagère toujours, dira, il y a eu 2000 tués, mais non, c'est pas vrai, mais il y a eu beaucoup de tués. Et l'évaluation la plus modeste, une centaine de tués. Là, vous voyez, la garde nationale a tiré sur le peuple. Eh bien, c'est comme ça. Et Robespierre va être obligé de baisser la tête, parce qu'on ne l'écoute pas. C'est entendu, le roi est inviolable. Le roi va prononcer un serment menteur, un serment qu'il est décidé à ne pas tenir, le 14 septembre 91, en disant « j'admets la Constitution, je serai respectueux de cette Constitution ». Robespierre est battu, il a été battu sur les trois terrains, il n'a ni obtenu la libération des esclaves, il n'a pas obtenu que l'on distingue les électeurs selon leur fortune, il n'a pas obtenu que la garde nationale soit ouverte à tout le monde, il s'est fait haïr, j'ai lu de près, j'ai demandé à lire, enfin, toutes les séances de l'Assemblée nationale. Et vous ne savez pas, il a parlé plus de 100 fois. Vous ne savez pas le nombre de fois où on l'empêche de parler. Je vais vous en citer une qui me revient encore aujourd'hui. Le Journal de Paris, qui est un journal plutôt neutre, s'appelait comme ça, Journal de Paris, le 22 octobre 89, dit, Monsieur de Robespierre a demandé la parole. Je cite par cœur, je le sais. Hein. On s'est rapidement aperçu qu'il voulait encore parler au profit des pauvres et on lui a coupé la parole. Alors il faut que vous rendiez bien compte que cet homme qui s'est fait haïr, qui s'est détesté, on a même répandu autour de lui, sur lui, le mensonge qu'il était le neveu de Damien. Damien, ça vous dit rien, c'est en 1757, Robespierre n'était pas né puisqu'il va naître en 58. Damien avait lancé un coup de canif au roi, c'est vrai, le roi avait été égratigné, résultat, il a été écartelé. Alors la presse de droite, on ne disait pas droite et gauche, on dit le côté droit ou le côté gauche. Eh bien la presse du côté droit dit, c'est pas étonnant que Robespierre prenne cette attitude, ce député populomane, ce n'est autre que le neveu de Damien. Complètement mensonge. Mais il est vrai que dans les tribunes où le peuple pouvait venir, une grande popularité l'entoure. Et le jour où elle se dissout de cette constituante, c'est le 30 septembre, oui c'est ça, le 30 septembre 71, Robespierre est acclamé par une foule qui veut même le porter en triomphe et il ne veut pas qu'on entende parler. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ben, c'est l'Assemblée législative prévue par la Constitution. Attention, l'Assemblée législative, je ne comprends pas que Robespierre ait pu y mettre le moindre espoir, étant donné que c'est une chambre censitaire. Ne peuvent être députés, que ne peuvent être représentants du peuple, non seulement que des gens qui sont élus par les possédants, mais qui eux-mêmes seront des riches. Étant donné que s'il faut payer l'équivalent de 3 journées de travail pour avoir le droit de vote, il faut payer l'équivalent, si on voit bien, de 50 journées de travail pour être éligible. Par conséquent, il a en face de lui une chambre de notables, de messieurs considérables, de gens assis. Et il s'aperçoit que presque tout de suite, les gens qui vont être les meneurs du jeu, enfin les gens qui vont s'imposer, c'est un groupe que l'on appellera Girondin. On appelle Girondin un peu par abus, puisqu'il n'y en a que 3 qui sont des vrais députés de la Gironde. C'est Vergniaud, c'est Gadet, c'est Jansonnet. Mais ce groupe prend autour de ces 3 des ralliés qu'on appellera également des Girondins, quoi qu'ils ne soient pas de la Gironde. Ben, il y a qui donc? Monsieur Roland de la Platière, qui a pour époux Manon Roland, qui est une femme riche, qui a un très beau salon à Paris, rival de salon de Madame de Staël. Et il y aura Condorcet, l'ancien encyclopédiste, qui est un ami de Voltaire, un ami personnel de Voltaire, qui a fait un livre sur Voltaire et qui a dit que Jacques Rousseau était un monstre parce qu'il avait essayé de ressusciter l'Empire des Ténèbres. Il y a aussi Brissot, qui est un journaliste, qui dirige un journal qui s'appelle Le Patriote, qui est très lu. Puis il y a Gorsa, puis il y a Cara, enfin, ce sont des gens nombreux. Je vous donnerai l'avis de 2 personnages importants sur les Girondins. L'un est Lamartine et l'autre est Jaurès. Lamartine, que j'ai étudié de très près parce que je suis son compatriote, me connaît comme lui, il lui est arrivé une drôle d'histoire. En 1843, il a commencé à écrire un livre qu'il voulait appeler Histoire des Girondins, dans l'idée de mettre en vedette les Girondins pour les opposer aux montagnards. Dans sa pensée, au départ, les montagnards sont des gens qui vont faire la terreur, tandis que les Girondins sont des purs et durs, mais pas de sang sur les mains. Il va travailler beaucoup mieux qu'on imagine. J'ai un peu regardé ses instruments de travail, ses papiers. Lamartine a beaucoup travaillé, et il n'a publié qu'en 47 son livre. Et bien, figurez-vous, entre 43 et 47, il avait changé d'avis. Et que son livre va être en l'honneur des montagnards, et en particulier en l'honneur de Robespierre. Et il dit des Girondins. C'est Lamartine qui parle. Les Girondins étaient des gens parfaitement résolus, allait se substituer dans le fond de la société des iniquités, de certains que la nation, au lieu d'avoir un seul tyran, en eut maintenant plusieurs milliers, c'est-à-dire les riches. Ce qui recoupait l'opinion de Robespierre. Robespierre avait dit, on a détruit l'aristocratie nobiliaire, on l'a remplacée par l'aristocratie de la richesse. Voici l'avis de Lamartine. Et maintenant, plus brièvement, l'avis de Jean Jaurès dans son Histoire socialiste de la Révolution française, qui a commencé à apparaître en 1902, où il dit, les Girondins, c'était, grosso modo, une oligarchie de beaux parleurs et de bourgeois arrogants. Eh bien, ces gens, effectivement, sont très excités contre Robespierre, qui leur paraît très dangereux. L'Assemblée s'est réunie dès le lendemain de la réunion de l'Assemblée. Robespierre est visé parce qu'il prend position d'une manière qui déplaît beaucoup aux Girondins sur la question qui devient imminente et capitale, la question de la guerre. Pour la législative, nous sommes dans l'histoire législative, qui a été élu pour 2 ans, mais qui ne durera même pas 1 an, l'essentiel, c'est la guerre. Pourquoi? Eh bien, si nous nous reportons à ce cher Michelet, qui avait l'habitude de l'emphase, il faut croire que vraiment cette guerre a été extraordinaire. Guerre sublime, c'est la deuxième fois qu'il emploie ce mot. Si vous vous rappelez, le côté sublime de la Révolution pour Michelet, c'est qu'elle était désintéressée, ce qui n'est pas vrai. Alors maintenant, guerre sublime, guerre pacifique, écoutez bien, pour fonder la paix éternelle. Oh, le grand cœur de la France! Quelle tendresse pour le monde, quelle ardeur de sacrifice, et comme tous les biens de la terre pesaient peu en ce moment. Mais c'est du délire, étant donné que c'est encore une question d'argent. Quelle question d'argent? Eh bien, la banqueroute dont je vous ai parlé, comment s'en était-on tiré? Plus question de banqueroute depuis 2 ans. Pourquoi? Parce qu'on avait saisi le bien d'autrui. Le bien d'autrui, c'était le bien de l'Église. Et en somme, moi qui suis catholique, je trouve ça parfaitement légitime. L'Église avait des biens monumentaux, et pour des chrétiens, ça n'était pas indiqué. Alors on met la main sur ces biens du clergé, c'est du reste Talleyrand, évêque d'Autun, qui le premier a dit, oui, prenez les biens de l'Église. Alors avec ces biens qui étaient estimés à environ 3 milliards, vous m'entendez, à cette époque c'était énorme, on allait pouvoir s'en tirer. On ne pouvait pas acheter sur le marché totalement immédiatement ces biens de l'Église, alors vous savez ce qu'on avait fait? On les avait décidés, on les avait appelés biens nationaux, et ils seraient vendus. Et c'est la vente des biens nationaux qui va éviter la banqueroute. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, et que l'on ne sait pas assez, c'est... pour employer une expression tout à fait contemporaine, mais qui va bien, la magouille, l'épouvantable magouille qui s'est passée autour des biens nationaux. Ça a été un gâchis, vous savez, et un pillage. Il jouissait d'être bien avec la municipalité qui vendait les biens nationaux pour les acheter pour rien, pour un morceau de pain. Même, on avait le droit de ne payer que par 12e, et comme vous allez voir que la signature dont je vais vous parler va se déprécier, une fois qu'on a payé en argent, en bon argent, on va payer les années suivantes avec de l'argent qui ne vaut plus rien. C'était ce scandale épouvantable des biens nationaux a rapporté à beaucoup de gens, en particulier à un nommé Cambon, vous allez voir plusieurs fois, Cambon qui se fera donner les finances. Les Cambons sont des gens très importants dans le Languedoc. Ils font du tissu, ils vendent de... Ils sont à la fois des fabricants et des négociants. Ils étaient déjà riches. Mais c'est M. Gérard Walter qui a fait l'édition savante de J. Michelet dans la Pléiade. Gérard Walter qui le dit, il faut savoir à quel point des gens comme les Cambons s'étaient prodigieusement, vous entendez, prodigieusement enrichis avec les biens nationaux. Alors, on lance du papier monnaie, comme vous savez, ça s'appelle de l'assignat, et l'assignat est garanti par les biens d'église. Nous voilà maintenant, sommes à l'automne 91, avec la législative qui débute. Savez-vous qu'il y a déjà pour environ 2 milliards d'assignats en circulation? Et comme les biens d'église sont dévalués à 3 milliards, si on continue à tirer des assignats, c'est-à-dire du monnaie, de la papier comme on le fait, très rapidement, l'assignat ne vaudra rien, par conséquent, c'est de nouveau la banqueroute. Alors comment faire? Comment faire pour éviter cette banqueroute? Eh bien, le ministre de la Guerre, Narbonne, qui a été pris le 7 décembre, je crois, et c'est le 14 décembre, il va parler à la tribune de l'Assemblée législative, et ce Narbonne, qui est un imbécile, va dire une gaffe, va faire un aveu extraordinaire, et que voici, que si l'histoire était ce qu'elle devrait être, si elle n'était pas l'histoire de bonne compagnie, on écrira ça en lettres rouges dans les livres scolaires. Le 14 décembre, Narbonne, ministre de la Guerre, dit « La guerre est indispensable, le sort des créanciers de l'État en dépend ». Eh bien, on peut pas être plus net, hein. L'État va de nouveau s'écrouler si on ne fait pas la guerre. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on va reprendre de nouveau le bien d'autrui. C'est la bourgeoisie qui a fait cette révolution, elle veut pas payer. Elle a fait payer l'église, c'est fini, y a rien à grappiller du côté des curés. Mais par bonheur, il y a les voisins, il y a la Belgique, il y a la Rhénanie, tout ça appartient à l'empereur d'Autriche. Alors si on se jette sur la Belgique et la Rhénanie, ben, on va prendre le bien d'autrui et on s'en tirera. C'est ça la vérité. Le roi est complètement d'accord. Et Robespierre se fait mal voir des Girondins parce que ces Girondins sont passionnés par cette guerre qu'ils annoncent en effet, Isnard par exemple, comme la guerre de libération de l'Europe, une générosité, nous sommes les hommes de la liberté, la France, on n'est pas égoïste, on va répandre la liberté partout, alors que vous savez ce qu'ils veulent, c'est-à-dire prendre l'argent d'autrui. Et Robespierre va faire toute une série d'interpellations aux Jacobins, car j'ai oublié de vous dire qu'il n'est pas éligible, il a demandé que tous les membres de la Constituante ne soient pas éligibles, il ne peut parler qu'à la tribune des Jacobins, et il va faire une série de discours pour dire qu'il ne faut pas faire la guerre. Pourquoi? Premièrement, dit-il, parce qu'il n'y a plus de cadre. Comment voulez-vous faire la guerre avec une armée qui n'a plus de cadre? Et effectivement, c'est vrai, les officiers sont partis en grand nombre. Les officiers constituent ce groupe des émigrés de Koblenz, qui font du bruit, qui ne sont pas dangereux. Mais enfin, les cadres ne sont plus là. Deuxièmement, toujours Robespierre qui parle, ce qui reste de cadre, dit-il, ce sont des gens qui sont des amis du roi. Et en effet, c'est très vrai, on est obligé de reconnaître aujourd'hui que beaucoup de ces officiers qui étaient restés là, qui n'avaient pas émigré, renseignaient les émigrés. Et lui, Robespierre, il dit, vous avez détruit la noblesse, mais la noblesse règne toujours sur l'armée. Comment pouvez-vous admettre de laisser l'armée entre les mains des ennemis de la Révolution? Troisième remarque de Robespierre, qui déplore beaucoup aux Girondins, comment vous avez accepté que Lafayette soit chargé d'une des principales armées? C'est Narbonne qui a en effet décidé que les trois grandes armées françaises seraient respectivement commandées par Rochambeau, qui avait aussi travaillé au soutien des Américains, par Luckner, qui était un vieux reître allemand au service de la France, et par Lafayette. Et Robespierre dit, mais c'est inconcevable. Lafayette, c'est l'homme qui a tiré sur le peuple. Vous n'allez pas accepter que cet homme est un grand commandement. Il peut très bien retourner une partie de son armée contre Paris. Troisièmement, dit-il, c'est une diversion que vous voulez faire. Une diversion. Parce que vous savez bien que les questions essentielles du point de vue de la politique intérieure, c'est qu'il faut donner le droit de vote à tout le monde. Et deuxièmement, qu'il faut permettre aux pauvres gens d'entrer dans la garde nationale. Et bien, dès qu'on aura fait la guerre, ou qu'on a déclaré la guerre, on ne parlera plus qu'aux affaires, qu'on ne pensera plus qu'aux affaires nationales, on ne pensera plus à ces affaires intérieures qui, pour moi et pour tous les républicains, doivent être capitales. Troisièmement, dit-il, c'est pas possible ce que M. Condorcet nous a déclaré l'autre jour à la tribune. En effet, Condorcet, qui est un Girondin, a dit, si nos soldats vont à l'étranger, comme ils sont les porteurs de la liberté, ils se conduiront avec la même dignité que s'ils étaient en France. Et Robespierre dit, mais enfin, soyons sérieux. Le premier mouvement d'une nation qui voit entrer chez elle des étrangers l'arme à la main, c'est de se défendre. Alors qu'on ne nous dise pas que nous avons des missionnaires de la République, personne n'aime les missionnaires armés. Et enfin, dit Robespierre, écoutez, du moment que ce ministre, qui a été choisi par le roi, veut la guerre, avec le prétexte bien facile des émigrés, qui sont, paraît-il, très dangereux, que ces émigrés sont protégés par l'empereur d'Autriche, il faut donc faire la guerre à l'empereur d'Autriche. Mais si le roi a choisi Narbonne, qui est un belliciste, c'est que le roi y trouve son avantage. Et là encore, malheureusement, je suis obligé de dire que Michelet a déliré quand il ose écrire dans son livre la cour, mais la guerre lui faisait une peur, virgule, une peur effroyable, vous vous rendez compte. C'est le contraire, la cour ne désirait que la guerre, parce que le roi Louis XVI a changé d'optique. Vous savez que, je vous le racontais, en juin 91, il est allé chercher des armées françaises à Montmédy. Ça avait raté. Alors maintenant, il se dit, la seule chance que j'ai, c'est qu'une invasion se produise, invasion de mon beau-frère, puisque sa femme a pour frère l'ambassadeur d'Autriche, l'empereur d'Autriche. Eh bien, si les Austro-Prussiens entrent, ce sont eux qui me ramèneront au pouvoir et ce sont eux qui rétabliront l'absolutisme. Parce que Robespierre dit cela, il est engueulé par les Girondins qui disent « Moi, c'est pas le roi déteste la guerre, ce que va répéter Michelet, c'est pas vrai. » Je vais vous apporter deux preuves extraordinaires. Je vous disais tout à l'heure, c'était le 14 décembre que Narbonne avait osé, enfin avait lâché cette gaffe énorme. Il est indispensable parce que le sort des créanciers de l'État en dépend. Ce même jour, vous entendez bien, ce même jour, 14 décembre, Louis XVI écrit une lettre publiée depuis à Breteuil. Breteuil, c'était un ami, c'est celui qui avait essayé qui avait tenté de remplacer Necker le 12 juillet. Et à Breteuil, le roi Louis XVI écrit cette chose extraordinaire. L'état physique et moral de l'armée française est telle qu'elle est incapable de soutenir même une demi-campagne. Qu'est-ce qu'on appelait une campagne? Eh bien, vous savez, c'était 6 mois. On disait à ce moment-là qu'on ne peut faire la guerre que dans les mois d'été ou d'automne. On ne peut pas faire la guerre toute l'année, on ne peut pas la faire en décembre. Eh bien, l'état de la France, au point de vue de son armée, est tel qu'elle ne peut pas même soutenir une demi-campagne. Donc, vous entendez bien, donc, disait le roi, il faut faire la guerre le plus vite possible, parce que l'armée française sera détruite et que je pourrai faire ce que je veux. Deux, Marie-Antoinette. Je viens de vous le dire, Marie-Antoinette a son frère qui est sur le trône d'Autriche. Elle écrit à son frère, carrément, comme ça, « Le plus grand service que vous pourriez nous rendre, c'est de nous tomber immédiatement sur le corps avec vos plus puissantes troupes. » Robespierre dit donc la vérité la plus crue, la plus pénible à entendre, à savoir que le roi est quelqu'un qui prépare le désastre des armées françaises. Il n'est pas entendu, d'autant moins que les Girondins sont très inquiets de ce qui se passe du point de vue social. Il y a une agitation. Le pain est devenu cher. Dans plusieurs départements, il y a des troubles. En particulier, il s'est produit le 3 mars, pas loin de Paris, à Étampes, quelque chose de très dramatique. Les journaliers ont fait une protestation en disant « Mais nos paiements ne sont pas... nos salaires ne sont pas augmentés. » Et le prix du pain augmente toujours. Le maire s'appelait Simoneau, un homme qui avait ses fortunes dans les biens nationaux. Alors nous exigeons, nous demandons à M. Simoneau d'indiquer un maximum du prix du pain. Le pain ne peut pas dépasser tant. Simoneau, je dis, pas question, il y a liberté économique avant tout, moi je respecte la liberté économique, je ne veux pas intervenir entre l'offre et la demande. Alors ces gens s'étaient énervés, on a tiré, et le maire Simoneau a été tué. Alors c'est le martyr de la propriété, c'est un homme admirable. Et puis voilà qu'en effet, à Paris même, on s'inquiète, un Suisse qui s'occupe beaucoup trop des affaires françaises, qui s'appelait Mallet Dupont, va publier le 16 mars 92, dans le Mercure de France, un texte où il dit, propriétaire, ouvrez les yeux. Vous êtes tout prêt à tomber sous la faux de l'anarchie. Bon, alors ça veut dire qu'il faut faire le plus vite possible cette guerre de diversion dont parlait Robespierre. Le roi en est tout à fait d'accord. Le roi va appeler au pouvoir les Girondins. Il va appeler au pouvoir M. Roland, ministre de l'Intérieur, M. Clavière, qui avait dirigé une grande entreprise d'assurance de la vie à Paris, qui est un riche genevois. Son père a gagné beaucoup d'argent à Genève. Et puis, au point de vue de la guerre, il y aura Servan, ministre de la guerre, et bientôt il y aura un homme nommé Lebrun qui va prendre les affaires d'Orléans. C'est un ministère jacobin. Et ce ministère jacobin est là pour prendre la responsabilité de la guerre. Parce que l'Autriche, qui n'est pas passionnée par la guerre, la Prusse non plus, l'Autriche et la Prusse, qui ont les yeux fixés sur Catherine II à cause de la Pologne. Vous savez, il y avait déjà un premier partage de la Pologne. Les Autrichiens et les Prussiens ont très peur que Catherine II ait de grandes dents et veuille avaler un très gros morceau de la Pologne. Alors, sur les affaires françaises, on verra plus tard. Pour l'instant, ce qui compte, les affaires de la Pologne. C'est pour ça que Marie-Antoinette s'exaspère contre son frère qui n'intervient pas. Toujours est-il qu'effectivement, il faut faire quelque chose. Alors, les Autrichiens disent, écoute, il faut laisser la responsabilité aux Français. Parce que, et ça c'est une chose importante et que l'histoire officielle ne dit pas, parce que les Austro-Prussiens sont absolument résolus à obtenir, écoutez-moi bien, des dédommagements sur la France. S'ils interviennent, ça leur coûtera quand même quelque chose, ils vont perdre des hommes, ils vont dépenser de l'argent pour leurs troupes. Alors ils sont absolument résolus à demander à la France une compensation. Et qu'est-ce que ça sera? Eh bien, on le sait aujourd'hui, ils voulaient l'Alsace et la Lorraine. Ils voulaient ce que Bismarck voudra en 1871. Mais le roi est d'accord. Peu importe, on coupera un petit peu le territoire national, mais moi je serai rétabli dans mes droits absolus. Laissez-moi ouvrir là une parenthèse, j'ai étudié de près la guerre de 70-71, et vous savez peut-être que si au début la France possédante avait accepté cette guerre parce que c'était Napoléon III qui la commandait, mais parce que le 4 septembre la République était revenue en France et que cette République faisait horriblement peur à une grande bourgeoisie possédante, on avait vu tous les généraux français, on avait vu toute la France possédante déclarer à Bismarck, faire savoir à Bismarck, nous sommes absolument d'accord, prenez Strasbourg, prenez Metz, mais intervenez de telle manière que la République soit abattue et que tous les risques de la propriété soient protégés. Bon, je ferme ma parenthèse et je reviens à cette attitude du roi. Le roi était persuadé qu'effectivement les armées se seraient battues. Le 20 avril, vous me suivez, le 20 avril 91, les Girondins déclarent la guerre, en disant c'est la dernière des guerres, hein. Nous connaissons ça en 1914. Eh bien, savez-vous que cette guerre qui est déclarée par la France, le 20 avril 92, elle va durer 23 ans. Grâce à Bonaparte qui va se transformer en Napoléon, le même Napoléon qui, en mars 1810, va oser cette affirmation, la guerre est la source de la richesse nationale, vous m'entendez bien, la guerre est la source de la richesse nationale, parce que pour Napoléon, les guerres c'est des razzias, c'est de prendre l'argent et le bien d'autrui. Ça va durer jusqu'à Waterloo. Ça commencera le 20 avril 92. Et ça commence très mal, comme Robespierre l'avait prévu. Il y a deux désastres, un désastre devant Mons, un autre désastre devant Tournai. Devant Mons, deux régiments soi-disant pris de panique et vraisemblablement commandés par des officiers royalistes se débandent, si bien que l'infanterie voit revenir une cavalerie désorganisée. Ils se précipitent sur l'île, ils se jettent sur leur général qui s'appelait Dillon et qui était évidemment un général traître qui était au service du roi, et tuent ce général. Puis ensuite, il y aura l'affaire devant Tournai. Devant Tournai, comme nos troupes sont également battues, le commandement donne ordre d'incendier, vous entendiez, les derniers faubourgs de Tournai. Alors, soi-disant, comme disaient les Girondins, on va se faire aimer, on va apporter la liberté à la Belgique, si on leur apporte, c'est l'incendie. Robespierre, qui est un bon Français, ne va pas applaudir au désastre, simplement, c'est ce que j'avais annoncé, mais il n'en tire pas gloriole. Il regarde simplement ce qui se passe, et ce qui se passe, c'est que l'agitation grandit à l'intérieur de la France. Il y a les gens qui ont été... C'est le 13 juin. Le 13 juin, les Girondins ont été renvoyés. Le roi avait plus besoin d'eux. Ils avaient déclaré la guerre. Alors on les remplace par un gouvernement de droite. Ils vont essayer de reprendre le pouvoir par une tentative populaire. C'est le 20 juin. Vous vous rappelez peut-être qu'à le 20 juin 92, la foule, les faubourgs, vont envahir la Tuilerie, se conduire très mal, insulter le roi. Le roi est coincé dans l'embrasure d'une fenêtre. On lui met un bonnet rouge sur la tête, il l'accepte. On lui demande de boire un verre de vin. Il boit au goulot pour montrer à quel point il est favorable au peuple. Mais il ne recule pas d'une ligne, il ne rappelle pas les Girondins. 20 juin 92. Puis nous arrivons au 10 août 92, qui va être la chute de la monarchie, et par quel moyen? Parce que la reine Marie-Antoinette est exaspérée en voyant que son frère n'attaque pas. Parce qu'elle le supplie de faire au moins un manifeste qui punira les Parisiens. Et on va faire, de l'autre côté, il y aura le fameux manifeste de Brunswick, qui sera signé à Koblenz, l'endroit où sont les émigrés, par le duc de Brunswick, le 25 juillet 92. Et ce manifeste est en effet terrifiant, au moins on l'espère, puisqu'il est dit là-dedans que si les Parisiens se livrent à la moindre atteinte à la dignité ou à la sécurité de l'armée royale, de la famille royale, écoutez-moi bien, Paris sera livré à une entière subversion. C'était effrayant de dire ça, mais surtout c'était une gaffe, de nouveau, comme celle de Narbonne, parce que c'était dire à l'opinion publique, nous venons au secours du roi. C'était la preuve de la connivence entre le roi et les envahisseurs. Résultat, comme vous savez, dissoute, la population qui se précipite, c'est beaucoup plus sérieusement, et dans d'autres intentions que le 20 juin, le roi qui est obligé de chercher refuge à l'assemblée qui ouvre les bras, Vergniaud, le Girondin, qui lui dit, mais sire, enfin, sa majesté, on va vous offrir le palais du Luxembourg, on va vous donner 500 000 francs, c'est pas mal, hein, 500 000 francs de rente, on va songer à un précepteur pour le prince impérial, mais il s'est constitué, vous le savez bien, une commune insurrectionnelle à l'hôtel de ville, dans laquelle se trouve Robespierre, qui jusqu'alors était resté silencieux, mais qui a confiance du peuple, il a la confiance du peuple, alors il fait partie de la commune, et le roi, la commune va intervenir pour que le roi n'ait pas le palais du Luxembourg et qu'il soit enfermé, en somme, pratiquement prisonnier au temple. Et puis il est décidé que ça sera maintenant le suffrage universel, et ça sera une convention. Qu'est-ce que ça veut dire convention? Mais c'est un mot emprunté à l'Amérique, qui était à ce moment-là dans tous les esprits. Convention, ça veut dire simplement assemblée. Comme on ne veut pas dire constituante numéro 2, on pourra dire ça pour Vatican 1 ou Vatican 2, mais pas constituante. Alors on dira, le prochain assemblée s'appellera convention, ce qui veut dire simplement assemblée, hein. Mais cette convention sera élue au suffrage universel. Alors ça, c'est très grave, et les Girondins sont très inquiets de ce qui va se produire, avec une garde nationale maintenant envahie de passifs, dirigée par un type impossible qui s'appelle Henriot, qui est un ancien commis d'octroi, et qui est un populacier, qu'est-ce qui va se produire? C'est une très grande inquiétude de penser qu'il y a une convention élue par le suffrage universel. Les élections au suffrage universel. Ben, vous savez, il faut savoir ce qui s'est passé, ce n'est pas drôle. Les gens n'étaient pas du tout habitués au suffrage universel et il y avait des analphabètes en grand nombre en France. Combien d'électeurs potentiels? Ben, environ 6 millions. Il y avait 25 millions de Français. Les femmes ne votaient pas, s'il faudra attendre 156 ans, 156 ans, hein, avant que les femmes aient le droit de vote. Mais enfin, tous les mâles pouvaient voter. Et bien, sur ces 6 millions d'électeurs, c'est pas même 2 millions, vous m'entendez bien, pas même 2 millions, donc un petit tiers qui a voté. Lorsqu'on va, nous aurons un chiffre précis, lorsqu'on va présenter la Constitution républicaine, en juin, 1 800 000 votants, c'est tout. Je vous répète, sur 6 millions. Et puis là, je voudrais vous indiquer quelque chose qui est très peu connu et qui me frappe beaucoup. C'est la correspondance de Madame George Sand. Je n'ai aucune estime pour Madame Sand, en particulier à cause de ceci. Madame Sand était horriblement inquiète de la Commune à Paris, nous sommes en 71, les élections vont avoir lieu, et dans une lettre intime que j'ai retrouvée, qui est publiée, elle dit ceci. Les élections vont avoir lieu, heureusement, les paysans, mes paysans, elle est châtaigne de Nord, qui ne savent pas, pour la plupart, lire et écrire, automatiquement votent pour les gens installés, pour les riches. Ce sont les pauvres qui votent pour les riches. Et elle disait, mon département, l'Indre, est heureusement un des plus noirs sur la carte de l'analphabétisme, parce que les analphabètes suivent ceux qui leur paraissent éblouissants, c'est-à-dire les nantis, les possédants, les installés, le notaire, le maire, autrefois le curé. Eh bien, c'est exactement ce qui s'était produit au moment de la Convention. C'est la première fois que des gens étaient invités à voter, ils votaient pas, ou ceux qui votaient, votaient pour le monsieur du coin qui semblait être cultivé. Ça voulait dire le nouveau propriétaire, c'est-à-dire non plus les nobles qui sont partis, qui sont en émigration, mais ces bourgeois qui se sont emparés des biens nationaux et qui sont devenus les nouveaux notables. Si bien que cette Convention nationale, qui a laissé un souvenir auprès de certains éblouissant, cette Convention qui paraissait encore si étonnante à Victor Hugo, que je respecte pourtant beaucoup, cette convention qui lui paraissait comme un Sinaï entouré d'éclairs. Vous vous rappelez, dans Les Misérables, il y a ce conventionnel à qui l'évêque Myriel va demander sa bénédiction, parce que un conventionnel, c'est quelqu'un qui a sacrifié tout à la République. C'est pas vrai. De quoi est-elle composée? Elle est composée de nouveau, de notables, de gens installés, de gens riches, ce sont des possédants. D'autre part, il a été admis que les anciens membres de la Constituante, comme les anciens membres de la législative, peuvent de nouveau être éligibles. Si bien que sur les 750 députés, savez-vous qu'il y aura combien de représentants du peuple, du prolétariat? Deux sur 750. L'un s'appelle Armonville et les quart d'heure de laine à Reims. L'autre s'appelle Noël Pointe et est ouvrier à la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Deux sur 750. Et alors vous avez plus de 100 de gens qui ont appartenu à la législative, mettons 120 en comptant ceux qui appartenaient aussi à la constituante. Et un homme comme Sieyès, qui était l'inventeur, vous le savez, de la distinction entre les actifs et les passifs, le voilà de nouveau député. Voilà un homme comme Boissy d'Anglas, qui est député, qui est favorable et entièrement favorable, qui le dira le temps venu, ou à la au rétablissement du sens. Alors Robespierre, c'est, vous voyez bien ce qui allait se produire, et à Paris, il s'est conduit d'une manière, je suis là pour dire la vérité, d'une manière très antidémocratique. Il avait horriblement peur que les notables dans Paris même prennent le haut du pavé. Alors il va pas respecter du tout le suffrage universel, et va déclarer inéligible et même écarter du droit de vote les gens qui ont fait partie de ce qu'on appelait les feuillants, dont je vous ai jamais parlé parce que c'est peu de choses. Les feuillants, c'était une sécession des jacobins, c'était des jacobins de droite. Eh bien, quiconque a fait partie des feuillants, quiconque a été ouvertement de droite, est exclu du scrutin. En plus, Robespierre va faire ceci, qui est tout de même assez raide. Il va obliger les gens à voter publiquement et à voix haute. Par conséquent, ceux qui votent mal peuvent faire engueuler par le peuple qui est là. Toujours est-il qu'il y aura très peu, vous savez, c'était des élections en deux temps, il y aura très peu d'électeurs le jour où il va être élu, il y aura 526 électeurs et il aura 338 voix, ce qui prouve qu'il n'a pas une majorité, mais toute la représentation de Paris sera gauche, et même extrême gauche, parce qu'on procédera chaque fois avec les mêmes moyens d'intimidation pour que la droite ne puisse pas se faire entendre. Alors nous avons, de cette Assemblée nationale, cette Convention nationale, nous avons une représentation parisienne, entièrement de gauche, très affirmée à gauche. Et tout le reste, vous m'entendez bien, tout le reste, ça sera une représentation de droite et conservatrice. Tout le reste. Y compris les Girondins, qui de nouveau sont là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va voir les Girondins attaquer tout de suite Robespierre, vous m'entendez? Elle s'est réunie le 21 septembre 1792, et le 25 septembre, ils n'ont pas pris de... pas pris de réserve, hein, le 25 septembre, Rebecky, qui est un député girondin de Marseille, attaque personnellement Robespierre en disant « Attention, c'est un personnage très dangereux, favorable à l'anarchie ». Le 29 octobre, c'est Louvet, un des grands ténors des Girondins, qui va attaquer aussi Robespierre en disant « Méfions-nous de lui, c'est quelqu'un qui cherche la dictature et la toute-puissance ». Eh bien, vous savez, il y avait un problème, du moins qui était réglé pour l'instant, c'est qu'il n'y a plus de danger militaire. J'ai esquivé ça la dernière fois, dans la première partie de mon exposé, mais il faut que je vous en parle maintenant. Les Austro-Prussiens s'étaient quand même décidés à une offensive, malgré le peu de goût qu'ils en avaient. Ils avaient décidé que le marché derrière Brunswick, qui n'était pas enthousiaste de la guerre, ils ont obtenu des succès, puisque Longueville a capitulé, puisque Verdun a capitulé, mais que, par bonheur, Danton a sauvé la situation. Danton est un personnage jusqu'alors de second plan. Tout à coup, grâce à la commune insurrectionnelle, il est devenu un personnage de premier plan, mais il va rendre de grands services aux Girondins. Les Girondins sont épouvantés par la question de la propriété. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce sont des anarchistes, ce sont des gens qui vont nous voler. Alors Danton va faire un discours le jour même où la convention se réunit, en disant, quant à la propriété, sous toutes ses formes, écoutez-moi bien, elle sera maintenue éternellement. C'est un mot qu'on emploie peu dans le langage logique et juridique, mais Danton l'a employé. La propriété éternellement sera garantie, quelle qu'elle soit, propriété individuelle, commerciale ou industrielle. Alors il rassure, Danton est en effet du gouvernement, à côté des Girondins, mais c'est la caution. C'est un homme qui arrange les choses, et en particulier, il les a arrangées du point de vue menaçant, du point de vue militaire. Puisque vous avez vu avancer les Austro-Prussiens, est-ce que vous savez ce qui va se passer? Eh bien, le 2 septembre, c'est pas encore la convention, c'est la fin de législative. Le 2 septembre, Danton va prononcer un discours qui lui vaudra sa célébrité. Et c'est le Danton du 2 septembre qui est sur toutes les statues en France. C'est l'homme qui dit de l'audace, encore de l'audace, et la patrie sera sauvée. C'était une plaisanterie. Parce que ce que voulait Danton, ben, il voulait obtenir des engagements. Il voulait obtenir que des volontaires se précipitent sous les drapeaux qu'on avait organisés pour souscrire à l'engagement pour aller se battre. Et Michelet lui-même, qui pourtant aime bien Danton, reconnaît Danton opérer ainsi un allègement, vous attendez, un allègement de la population parisienne, c'est-à-dire qu'il poussait du côté de l'armée des gens qui socialement seraient très dangereux, c'est-à-dire les jeunes prolétaires. Et alors ces gens vont aller s'engager, on ne parlera en effet que de la guerre, une guerre conduite par Danton avec beaucoup d'habileté, parce qu'il va s'arranger, avec les Prussiens. Et je sais très bien ce qu'il leur a dit, quoi qu'on ne l'affirme pas, mais aujourd'hui je peux vous le dire parce que c'est sérieux. Ils ont dit, il a fait savoir aux Prussiens, Danton, attention, ne vous avancez pas trop vers Paris, parce que vous voyez ce qui vient de se produire. Qu'est-ce qui vient de se produire? Eh bien, à la nouvelle que les Autrichiens avançaient, les gens qui étaient emprisonnés, les royalistes, manifestaient leur grande joie. Comme quand ils avaient de l'argent, ils pouvaient obtenir des festins à l'intérieur de la prison, et ils le faisaient. Les voilà qui, le 1er septembre, le 2 septembre, poussent des cris de joie, en se félicitant, en disant, on va être délivrés, à bas la République, à bas la gauche. Alors, il s'est produit que la commune avait envoyé des délégations qui allaient procéder au massacre de cette... Michelet dit encore, c'était 300 ou 400 ivrognes, mais pas du tout. C'était organisé très scrupuleusement, vous savez. Dans chaque prison, il y avait une espèce de petit jury populaire qui s'installait, et on disait, celui-ci ou celle-là, ben, on la tue, on le tue, ou bien celui-ci ou celle-là, on le délivre. Pendant 4 jours, il y a eu à Paris des choses affreuses qui s'appelaient les massacres des prisons de septembre. Alors, Robespierre n'avait du reste osé rien dire. Il désapprouvait. Danton, qui était ministre de la Justice, ne disait rien. Pétion, qui était maire de Paris, ne disait rien. Parce qu'on avait l'impression qu'il y avait un tel soulèvement populaire que c'était, il fallait attendre que ça passe. Mais alors, ce que Danton avait fait du côté des Prussiens, c'est de leur dire, écoutez, je ne peux plus garantir la vie du roi. Il est au temple, comme vous savez, dans cette prison du temple. Si vous vous approchez de Paris, vous allez voir. La plèbe, le petit peuple, les prolétaires vont se jeter sur le roi, vont tuer le roi. Alors, je vous en prie, n'avancez pas trop, parce que vous-même, enfin, qui êtes venu pour sauver le roi, vous allez le conduire à sa perte. Alors le roi, plus avait dit, mais bah, c'est entendu, on va s'arrêter, mais comme il fallait tout de même s'arranger pour donner le change, alors on avait fait le simulacre, et je sais ce que je dis, le simulacre de Valmy. On m'a appris, moi, qui est petit élève de classe enfantine en France et de classe secondaire, on m'a dit, c'est le premier grand succès de la République. D'abord, c'était pas encore la République, parce qu'elle n'est pas proclamée, c'est le 20 septembre, la République sera proclamée 2 jours plus tard. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous savez bien, vous ne savez pas, qu'il n'y a pas eu de bataille de Valmy. Il y a eu échange de coups de canon. Mais la fameuse infanterie prussienne, redoutable et redoutée de Danton, avait ordre de ne pas bouger. Et l'infanterie française d'attendre l'attaque de Nice. Si bien qu'il y avait 2 puissantes armées qui se faisaient face, Mais il n'y a jamais eu de combat corps à corps. Il n'y a pas eu d'offensive prussienne, il n'y a pas eu d'offensive française. On a tiré des coups de canon, on a tué du monde, il y a eu environ 500 tués à coups de canon, et c'est tout. Et dès le lendemain, donnant la parole, maintenant, fidèle à la parole qu'ils avaient donnée, les Prussiens commencent à se retirer. S'il n'y a que le 1er octobre, il n'y a plus de Prussiens sur le sol français. Et même, il y avait à cause des volontaires qui avaient du cœur au ventre, Genmap, qui est une victoire remportée le 6 novembre, la Rhénanie se défend très peu, Spire, Worms, Francfort même, sont pris, Mayence également, enfin ça va très bien, la situation extérieure française est excellente, et Nice et la Savoie offrent leur annexion à la France. Bon. Donc ça va bien. Mais il y a un problème immédiat, qui est le sort du roi. Robespierre a pris position pour la peine de mort. Et c'est intéressant de savoir qu'il ne l'a pas fait le premier. Saint-Just l'avait fait quelques jours auparavant, le 13 novembre, et Robespierre, c'est le 3 décembre 92 qu'il a pris position. Il faut savoir que c'était Robespierre qui, du temps de la Constituante, avait demandé l'abolition, vous entendez bien, l'abolition de la peine de mort dans la justice française. Et son raisonnement était le suivant. Lorsque quelqu'un qui est un criminel est en prison, ça serait un assassinat gratuit que de tuer cet homme qui est maintenant sans défense. Il n'est plus dangereux, puisqu'il est emprisonné, il pourra être emprisonné à vie, mais je ne vois pas pourquoi on le tuerait. Ce serait une vengeance qui n'a pas de raison d'être. Et cependant, voilà le même Danton maintenant qui prend position pour la peine de mort au sujet du roi, en disant, il ne s'agit pas de jugement, il n'y a pas de procès à faire, il n'y a qu'un constat à enregistrer. Vous n'êtes pas des juges, dit-il au conventionnel, vous êtes des hommes d'État. Et au point de vue de l'État et de l'intérêt de l'État, vous êtes obligés. Il faut faire disparaître la personne du roi. Parce que tant que le roi sera vivant, il sera un danger pour la République. Parce qu'il représentera un espoir positif, non seulement à l'intérieur, mais pour les royalistes qui peuvent se dire, mais il est encore là. Mais même du point de vue extérieur, parce que, dit-il de manière allusive, mais aujourd'hui on peut comprendre, le roi peut servir aux intérêts de ceux qui ne veulent pas d'une guerre réelle. En effet, il ne visait peut-être pas publiquement Danton, mais il savait très bien que Danton avait fait savoir aux Prussiens, si vous avancez, c'est le sort du roi qui est tombé. Il faut faire disparaître le mythe royaliste. Et vous savez bien aussi, je l'ai dit je crois une première fois, que l'idée de la monarchie était jointe dans beaucoup de pensées à l'idée de la propriété. Le roi était une espèce de garantie mythique de la propriété. Il faut faire disparaître ça. L'idée aussi que le roi dépend, enfin que le roi a un droit divin. Il n'y a pas de droit divin, disait Robespierre. Alors si on coupe la tête du roi, on coupe la tête à l'idée monarchique en France. Voilà pourquoi il va le faire. Les Girondins vont faire tout ce qu'ils pourront pour garder le roi à cause de la personnalité mythique dont je vous ai parlé. Ils vont demander une consultation nationale. Robespierre s'y oppose avec de mauvais arguments. Ils vont demander un sursis une fois que la peine de mort, qu'ils n'ont pas osé voter contre. Quand la peine de mort a été votée, Robespierre s'oppose de nouveau au sursis. Et le 21 janvier 93, le roi Louis XVI est décapité dans une exécution morne. Quelquefois, on nous raconte qu'il y a eu de grands cris, vive la République, ça n'est pas vrai. Les documents contemporains que je possède disent, les gens ont regardé, n'ont rien dit, un grand silence. Le roi a essayé de parler, et vous savez qu'on lui a, un roulement de tambour lui a couvert la voix, c'est tout. Ça s'est passé d'une manière triste. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la Convention? Ben, il se passe que je vous l'ai dit, Robespierre est la cible, véritablement la cible, des Girondins. Le ministère de l'Intérieur est possédé par ce nommé Roland. Roland a créé ce qu'il appelle le bureau de formation de l'esprit public. Vous appelez bureau de formation de l'esprit public. Et il répand à travers la France des libelles, mais ininterrompues, il fait des articles, des petits textes contre la députation de Paris et contre Robespierre personnellement, représenté comme l'homme le plus dangereux. Le 1er mars, voilà que tout à coup, les Austro-Prussiens, qui ont repris du poil de la bête, attaquent. Notre situation politique militaire était très bonne. Dumouriez s'était emparé de toute la Belgique. Le 14 novembre, il est entré à Bruxelles. Le 29 novembre, il était entré à Liège. Nous possédions, enfin la France possédait la Belgique, elle se préparait même à annexer. Mais voilà, tout à coup, et un peu à l'improviste, les Autrichiens attaquent. Et du côté d'Aix-la-Chapelle, les forces que Dumouriez y avait laissées, lui s'occupait d'entrer en Hollande, ces forces dirigées par le général Miranda, sont bousculées. Si bien que le 8 mars arrive à Paris des nouvelles déplorables. On dit Liège va être perdu et c'est une ruée des Austro-Prussiens devant nous. Nous sommes en présence de deux journées que j'appellerai énigmatiques. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai lu tout ce qu'on peut lire. Je peux vous dire qu'aujourd'hui encore la question est très loin d'être éclaircie. Deux journées opaques qui sont les journées du 8 et 9 mars 93.
je serais incapable de vous dire quel a été le comportement de Danton. Et Robespierre n'en parlera pas. Il dirigeait à ce moment-là une publication hebdomadaire qui s'appelait « Lettre de Maximilien Robespierre à ses commettants », copiant d'ailleurs ce qu'avait fait Mirabeau, qui lui aussi écrivait comme ça à ses commettants. Et bien, au début d'avril, Robespierre va consacrer un numéro à ce qui s'est passé aux événements de mars, et après avoir annoncé qu'il allait parler des événements de mars, il n'en parle pas. Je ne sais pas ce que je peux vous dire, qu'il y a eu commencement de mouvement populaire, qu'on se demande ce que si Danton n'était pas derrière, qu'à ce moment-là, il y avait une tragédie du côté de Dumouriez, que Dumouriez va aller beaucoup plus loin que Lafayette. Lafayette, lui, ne veut pas servir la République, alors il a démissionné, il s'est retiré, il s'est même fait prisonnier des Autrichiens, tandis que Dumouriez va passer à l'ennemi, il s'est fait battre, il a reçu une défaite, il a essuyé une défaite à Neerwinden, et il va aller trouver les Autrichiens, et il va mettre, écoutez bien, son épée au service de l'Autriche. Donc c'est exactement un traître. Cependant, Danton a protégé Dumouriez jusqu'au bout, et tout ce qui a résulté de cette tentative, vaguement tentative d'insurrection des 8 et 9 mars, c'est que le 10 mars, Danton va faire voter l'institution du tribunal révolutionnaire. Ce tribunal révolutionnaire que Danton fait créer personnellement le 10 mars 93, c'est ce tribunal révolutionnaire qui lui fera couper la tête un an plus tard. Robespierre se préoccupe de la Constitution, puisque la Convention est là qu'une constituante numéro 2 pour faire une constitution républicaine, et il voudrait que soit modifié le droit de propriété. Et il prend un exemple. Premier exemple, la liberté. Vous savez bien que la liberté a pour limite la liberté d'autrui. Réfléchissons maintenant au droit de propriété, et j'évoque devant vous, disait-il à la tribune, ce vaisseau, je me trompe, ajoute-t-il, non, ce cercueil flottant, où sont entassés des hommes, des femmes et des enfants à la peau noire. Vous n'avez pas détruit la traite des Noirs. Alors le propriétaire de ce bateau, quand on lui demande « Quelle est votre propriété ?», il montre ce bateau en disant « Ceci est ma propriété ». Et Robespierre ajoute « Vous pensez bien que ce n'est pas possible. Personne ne peut être, aucun homme ne peut être la propriété d'autrui. » Je demande donc que dans la prochaine constitution, le droit de propriété soit ainsi rédigé. « Ce droit de propriété ne peut préjudicier ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à l'existence de nos semblables. » Eh bien, les Girondins sont naturellement fous furieux contre lui. Il faut savoir que les Girondins avaient une doctrine là-dessus. Cette doctrine, c'était le libéralisme économique impitoyable, puisque Roland, ministre de l'Intérieur, quand on lui avait demandé ce qu'on peut faire pour essayer de limiter les disproportions monstrueuses entre les riches et les pauvres, avait dit « Quant aux affaires économiques, la seule chose que peut se permettre le gouvernement et de déclarer qu'il n'interviendra jamais. » Vous entendez que le gouvernement n'interviendra jamais sur des questions économiques. Alors voilà, c'est Robespierre qui se mêle de toucher à la propriété qui est l'arche sainte, qui est la chose à laquelle on ne touche pas, si bien qu'il n'obtiendra rien, et que les conventionnels girondins vont déclarer simplement ceci, le droit de propriété est celui de jouir et de disposer à son gré de son bien. La tension entre lui et les girondins ne va pas cesser de croître. Les Girondins sont de plus en plus inquiets de ce qui peut se produire à Paris. Il y a derrière Robespierre, il y a les faubourgs. Il faut bien se rendre compte que si le marais, c'est-à-dire le centre, qu'on appelle aussi le ventre, qu'on appelle la plaine, simplement, si ces gens-là, qui sont l'immense majorité de la Convention, n'osent pas bouger, c'est qu'ils ont peur de ces faubourgs qui soutiennent Robespierre. Robespierre est l'élu des petites gens de Paris. Par conséquent, tant qu'il aura l'appui des faubourgs, on ne peut rien faire contre lui. Mais c'est tout de même très dangereux, c'est invraisemblable que Paris ne soit pas réduit, comme disait un de ces Girondins, à son 83e d'influence. Il y a 83 départements, et bien Paris n'est qu'un département parmi les autres. Et au mois de mai, les Girondins vont se permettre une offensive, une agression, enfin, contre la Convention en disant il faut appeler au secours la province. Là, vous voyez des gens comme le Cambon, qui avait dit lui-même « J'ai un heureux habitant du Midi. Si vos propriétés sont menacées, levez-vous. » Maintenant, vous avez Pétion, qui était autrefois un homme acclamé comme Robespierre, maire de Paris, et qui est devenu un homme de droite. Il s'adresse aux, entre guillemets, « braves habitants de Paris, vos propriétés sont menacées. » Voici maintenant Vergniaud, écoutez bien, « homme de la Gironde, levez-vous. Plus une minute à perdre, sous peine de voir se dissoudre tout le corps social. » Louvet, qui avait accusé Robespierre de viser à la dictature. Louvet prononce maintenant un discours en appelant à la guerre sainte contre les brigands. Les brigands sont ceux qui parlent d'une modification de la propriété. Gadet va dire échafaud aux détrousseurs. Et le 25 mai, Isnard, qui est un parfumeur, comme on dit, c'est-à-dire à Grasse, un entrepreneur de parfumerie, Isnard va faire un discours invraisemblable à la tribune de l'Assemblée, le même Isnard qui avait dit « c'est une guerre pacifique, nous allons apporter de la liberté à l'Europe », Isnard dit « si jamais il est porté atteinte à la propriété dans Paris, toute la France se lèvera, détruira la ville de Paris à ce point », disait-il, parce qu'il est lyrique, à ce point que quelques temps plus tard, quelques années plus tard, on se demandera si jamais une cité a existé là. Le Girondin Isnard est en train de répéter le manifeste de Brunswick, vous vous rappelez, 25 juillet 92 de Koblenz, s'il est porté atteinte à la famille royale, Paris sera livré à une entière subversion. Et bien maintenant, c'est un Girondin Isnard qui annonce la destruction, l'anéantissement de Paris si on touche à la propriété. Évidemment, ça n'est plus tolérable. Et Robespierre, qui est un homme de paix, qui n'est pas du tout un anarchiste, Robespierre va dire, ce n'est plus possible, j'appelle à l'insurrection. Attendez, à l'insurrection parlementaire. Il ne me demande pas que le peuple se lève contre la Convention. Il veut un respect de la Convention. Mais en réalité, le peuple va se lever. Le 30 mai et le 2 juin, la Convention va être investie. Henriot, avec ses gardes nationaux plébéiens, va même diriger ses canons contre les conventionnels. Robespierre va être mal écouté lorsqu'il dira « n'allez pas trop loin, et surtout ne pas toucher à la vie de ceux que dont nous allons prononcer la déchéance, une insurrection parlementaire, en ce sens que c'est la Convention elle-même qui va s'amputer d'un certain nombre de députés. Il y en aura 32, simplement, 32, qui vont être mis à l'extérieur. C'est tout de même un attentat à la représentation nationale. » Michelet va déchirer ses vêtements, il va dire c'est le grand crime de la Révolution, c'est le moment où la Révolution a mal tourné. Mais Lamartine, dont je vous ai parlé, Lamartine dira encore 6 mois de ce gouvernement et c'en eût été fini de la France et comme nation et comme république. Robespierre est indulgent à l'égard de ces conventionnels qu'il rejette. On a parlé d'exécution et il a dit surtout pas. Je vous demande simplement qu'ils soient assignés à résidence dans leur domicile, dans leur domicile parisien, et que s'ils donnent leur parole d'honneur de ne pas quitter Paris, on les laisse en liberté. Vous vous doutez bien que la plupart du temps, cela va se sauver, sauf un homme comme Vergniaud qui a donné sa parole d'honneur et qui la tiendra, ce qui lui coûtera la tête, mais la plupart des Girondins, après avoir promis qu'ils ne bougeraient pas, s'en vont en province, et ils vont faire ce qu'ils avaient annoncé. Ils vont essayer de soulever la province. Or, il y avait déjà un drame qui commençait en Vendée. C'est le 11 mars 93, qu'on avait décidé, non, on l'avait décidé au début de mars, une levée, non pas en masse, mais une levée de 300 000 hommes à Machecoul, en Vendée, enfin Loire-Inférieure. Les Vendéens, les réactionnaires, s'étaient jetés contre les Républicains, ça avait commencé par un carnage de Républicains. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle avec joie de certains côtés du génocide qui serait opéré en Vendée. C'est absolument vrai que les Républicains s'y sont souvent très mal conduits et ont fait un carnage. Mais il ne faut pas oublier que ça a commencé par un carnage de Républicains à Machecoul le 11 mars. Alors la situation est très dramatique parce que voilà la Vendée en feu et voilà les Girondins qui vont essayer de soulever les départements contre Paris. À Lyon, par exemple, il y a une municipalité républicaine et est renversée par la bourgeoisie. Lyon se met en sécession. À la fin du mois de juin, au début du mois de juillet, si vous voulez, 93, 60, vous entendez bien, 60 départements sur 83 sont en état d'insurrection. Le 10 juillet 93, il y avait un renouvellement du comité de salut public. Ce comité avait été élu le 6 avril, et dans des conditions assez curieuses, Danton avait fait le 1er avril un discours déchaîné contre les Girondins, puis le 4 avril, il avait été tout gentil, tout conciliant, il avait dit « rapprochons-nous, virgule, rapprochons-nous fraternellement ». Si bien qu'un comité de salut public, c'est la première fois qu'il apparaissait, s'était créé le 6 avril avec Danton à la tête, Danton vedette, Robespierre n'en fait pas partie, et encore même des, non pas des Girondins puisqu'ils ont été exclus, mais des amis des Girondins. Comité de salut public qui se conduisait formel, qui ne faisait rien d'intéressant, qui au point de vue de la Vendée se conduisait très mal parce que on avait envoyé là-bas le général Westermann, qui était un personnage suspect, et qui avait levé à Paris des volontaires à 500 livres, d'où le ridicule. C'est volontaire à 500 livres, 500 livres, 500 francs immédiatement pour quelqu'un qui allait combattre en Vendée. La plupart de ces gens qui appartenaient, hélas, à la racaille parisienne, avaient considéré la Vendée comme un lieu de pillage et de viol. Si bien que les troupes républicaines se faisaient régulièrement battre. Ce malheureux comité de salut public ne faisait rien d'efficace, et le 10 juillet 93, renouvellement. Le comité de salut public doit s'être renouvelé tous les mois, le 10 juillet c'est le renouvellement. Et alors là, figurez-vous que Danton décide de se retirer. Pourquoi? Oh, vous savez, comme il fait, Danton, c'est un homme qui parlait beaucoup de choses sexuelles. Et comme il venait de se remarier, il avait perdu sa femme en février, en juin, il s'était remarié avec une gamine qui n'avait pas 16 ans. Alors il disait, il aimait beaucoup taper sur le ventre de ses copains, et tutoyer alors tout le monde. Et il disait, mais j'ai tellement de choses à apprendre à cette petite, foutez-moi un peu la paix, laissez-moi vivre ma vie d'homme marié. En réalité, c'est que Danton trouve que la situation est très dramatique, qu'il y a toutes les chances que ça tourne mal et qu'il se réserve. Il ne veut plus de responsabilité, il veut se mettre dans la coulisse. Le 10 juillet, entre à au comité de salut public, trois amis de Robespierre. Il y a Saint-Just, il y a Couthon, et il y a Jean, bon Saint-André, dont on parle peu parce qu'il suivra la Révolution, mais il était vraiment robespierriste. Et ils disent à Robespierre, voilà que Danton se retire, écoutez, c'est votre place. Et Robespierre refuse. Robespierre n'entre pas au comité de salut public, alors on lui ouvre cette porte le 10 juillet. Pourquoi? Eh bien, vous savez, première chose à vous dire, et qui sera importante, puisque nous étudions la personne même de Robespierre, c'est un homme malade. Il a des mouvements convulsifs, des yeux, du cou, des épaules, il a certainement un déséquilibre nerveux, et d'autre part, c'est un homme qui est en très mauvaise santé, qui est obligé assez souvent de prendre des congés réguliers, et je me risque un peu, puisque je ne sais pas, mais je penserais volontiers qu'il avait ce que l'on appelle alors la phtisie, qu'on appelle aujourd'hui la tuberculose. Alors il dit, ce n'est pas avec la santé que j'ai que je peux prendre la responsabilité pareil. Nous sommes le 10 juillet, et le 12 juin, Robespierre au convent, aux Jacobins, a dit, je pense que je serai conduit à démissionner. Tiens, il veut démissionner, à cause de sa santé. Et le 10 juillet, on dit, il veut te placer là, et il dit non. Mais voilà que le 27 juillet, vous me suivez, le même mois, 27 juillet, une vacance se produit au comité de salut public, et Robespierre va dire oui. Tiens, qu'est-ce qu'ils ont passé? Ben, à mon avis, il s'est passé le 13 juillet. Le 13 juillet, Marat a été assassiné. Vous savez bien, il a été assassiné par une Charlotte Corday, qui s'est conduite d'une manière ignominieuse, parce qu'elle savait que Marat était un homme très généreux, et qu'elle lui a fait passer un billet disant, je sais bien qu'il suffit d'être malheureux pour être accueilli par vous. Alors le pauvre Marat, qui était dans son bain parce qu'il avait des ulcères, et qu'il avait un bain tiède, fait entrer la jeune fille, qui immédiatement sort un poignard et le lui enfonce dans le cœur. Elle avait bien étudié l'anatomie. Alors Robespierre se dit, voilà une mort intéressante, une mort qui signifie quelque chose. Voilà un martyr républicain. La mort de Robespierre sert nos idées. Et moi je suis probablement condamné à mourir rapidement. Et il va le dire, je ne suis pas fait pour vivre longtemps. Et si je prends la parole, dit-il le 14 juillet, le lendemain de la mort, c'est parce que je me sens promis aux honneurs du poignard. Et quand il dit ça, ben, il n'est pas loin de la mort, en effet. Alors j'ai l'impression que si Robespierre accepte le 27 juillet ce qu'il a refusé le 10 juillet, c'est parce qu'il veut mourir en combattant plutôt que de mourir bêtement dans son lit. Il se constitue cible, puisqu'il dit « je m'attends moi-même à avoir le déshonneur du poignard ». Eh bien, regardons-le de très près, parce que ce 27 juillet 93, il a très exactement 365 jours à vivre, puisqu'il va tomber le 27 juillet 94. Alors voilà Robespierre au pouvoir. Eh bien, cette fois, on va agir, je vous assure, on va agir. Du côté de Lyon, par exemple, on va décider que Lyon sera investi par une puissante armée républicaine à partir du 6 août. Du côté de la Vendée, on va obtenir que Kléber, qui a été obligé de rendre Mayence après une héroïque résistance, qui lui a valu les honneurs de la guerre, on va envoyer Kléber avec ses hommes, qui sont des soldats courageux, on va les envoyer en Vendée. Et là, ils se conduiront en effet terriblement, mais ils vont arriver à vaincre les Vendéens. Si bien que maintenant, la France se conduit du point de vue militaire d'une autre manière, certes qu'elle l'avait fait sous le pseudo-comité de salut public du 1er avril. Robespierre a pris une décision sur laquelle on insiste peu, et je veux y insister. Robespierre a décidé que ça n'est pas toujours aux soldats qu'il fallait faire porter la responsabilité des échecs, et qu'il fallait penser à la responsabilité des généraux. C'est une chose scandaleuse. S'en prendre aux généraux, c'est inimaginable. J'ai étudié, vous le savez, peut-être aussi la guerre de 1870-71, une guerre volontairement perdue par les généraux. Vous n'imaginez pas la stupeur que j'ai eue lorsque je me suis aperçu que plusieurs numéros du journal officiel étaient remplis de promotions et de décorations pour les généraux, pour les officiers supérieurs qui s'étaient si mal conduits. Est-ce que vous savez que le 26 mai 1940, alors que nous avions subi, nous Français, le désastre que vous connaissez devant Sedan et que les responsabilités de plusieurs généraux étaient engagées, savez-vous que le maréchal Pétain, qui était à ce moment-là ministre de Reynaud, lui écrit une lettre furieuse, une lettre insolente, 26 mai 40, en disant « Je vous interdis de frapper quelques généraux que ce soit. Je ne veux pas de punition pour l'armée. » Et bien Robespierre, lui, a décidé que les généraux seraient punis. Et on va voir se succéder à la guillotine des généraux français, en particulier Custine. Et je dois dire mon admiration pour la circulaire que Robespierre va signer à la fin de cette même année, 3 décembre 1993, deux signatures, Saint-Just et Robespierre. L'insubordination des généraux est la pire dans une république. Dans un état libre, c'est le pouvoir militaire qui doit être le plus astreint. Bon, alors maintenant, on va faire aussi une modification dans l'armée. On va faire l'amalgame, parce qu'il y avait des gens qui ne s'entendaient pas. Il y avait des volontaires, habits bleus, qui élisaient leurs officiers et qui avaient une solde supérieure. Puis il y avait l'ancienne armée, qui était les habits blancs. On va créer maintenant des demi-brigades, avec à la fois des volontaires et des lignards, si bien qu'il y aura quelque chose d'unitaire et de puissant dans l'armée française. Et les succès vont venir. Nous avions, depuis quelques mois, nous étions habitués à des désastres, et voilà que successivement, il y aura Hont-Scott et Wattignies, Hont-Scott qui libère Dunkerque, et Wattignies qui libère Mauvais. La situation militaire se redresse grâce à l'action de Robespierre. Robespierre est gêné sur un point, il ne sait pas ce qu'il faut faire pour les subsistances. Il avait autrefois devant lui, il y a quelques mois, les Girondins, ils ne sont plus là. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent comme les Girondins, c'est interdit d'intervenir dans les questions économiques et financières. Libéralisme économique absolu. Et Robespierre n'est pas très sûr, c'est injuste non plus, qu'il soit juste, qu'il soit efficace d'introduire des moyens violents. Quels moyens violents? Poursuivre des accapareurs, bon c'est très bien en principe, mais est-ce quelle distinction faire entre l'accapareur et le grossiste? Un grossiste peut être appelé un accapareur. Le maximum. Décider qu'on ne dépassera pas le prix de temps pour telle denrée. C'est pas commun, parce qu'il y a tout de même la marge bénéficiaire normale du commerçant. Alors il y a un qui est très hésitant, et Sainte-Beuve, et non, Saint-Just lui dit aussi, je ne suis pas très sûr que les méthodes autoritaires, du point de vue économique, soient les bonnes. Alors il hésite, il ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Mais il est épouvanté par le comportement de Monsieur Cambon, le richissime Cambon, qui va se vanter le 24 août de créer le grand livre de la dette pour montrer que la République se conduit mieux que la monarchie à l'égard des dettes de l'État. Mais le même Cambon va décider d'une discrimination dans le paiement des rentes qui rend Robespierre stupéfait. Ce qui a basourdi Robespierre, c'est la discrimination que Cambon a établie entre rentiers français qui touchent de l'État 1000 francs ou plus ou moins de 1000 francs. Pour ceux qui touchent moins de 1000 francs, ils seront payés en assignat. Et pour ceux qui touchent plus de 1000 francs, ils sont payés en numéraire. Or, vous savez déjà, je vous l'ai indiqué, que l'assignat perdait de sa valeur jusqu'à 30 et 35% de sa valeur. Par conséquent, on pourrait admettre que ceux qui ont un petit traitement, une petite rente de 1000 francs, soient payés en numéraire. Pas du tout. Ce sont les plus pauvres qui sont punis. Et ceux qui touchent des numéraires, c'est-à-dire de l'argent solide, ce sont ceux qui ont plus de 1000 francs. Robespierre en est atterré, mais il peut rien faire. Et d'autre part, il est épouvanté aussi parce que Saint-Just avait appelé l'émission abusive du signe, c'est-à-dire le nombre des assignats. Il va figurer que pendant l'été 93, 2 milliards nouveaux d'assignats ont été répandus. Ils n'osent rien faire. Voilà qu'en septembre se produit un drame dans Paris, qui ressemble un peu à ce qui s'est passé au mois de mars. Une horrible nouvelle survient. C'est Toulon qui a été livré aux Anglais par les deux amiraux français qui dirigeaient en Méditerranée, l'amiral Chosgrau et l'amiral Trogoff, qui se sont remis entre les mains des Anglais et qui ont permis aux Anglais de débarquer dans Toulon. Alors un mouvement d'agitation se produit dans Paris, des gens qui crient la faim, qui crient du pain, parce que l'été a été très sec et que beaucoup de moulins à eau n'ont pas pu travailler, si bien que les arrivages de pain ont été irréguliers dans Paris. Robespierre va avoir accentué l'allure gauchiste, si vous permettez, de son gouvernement, puisqu'on va le voir qu'il va accueillir l'idée d'une armée révolutionnaire, attention, une armée dans Paris, une armée de prolétaires, ils sont 2000, et ils ont une guillotine avec eux, et qui surveillera le ravitaillement de Paris. Deuxièmement, il va faire entrer au comité de salut public deux hommes de gauche, carrément de gauche, l'un s'appelle Collot-d'Herbois, l'autre s'appelle Billaud-Varenne, ce qui compensera l'entrée de Carnot et de Prieur de la Côte d'Or qu'on lui avait imposé le 14 août et qui sont des conservateurs. D'autre part, un prêtre constitutionnel, l'abbé Royer, qui était évêque de Chalon-sur-Saône, je crois, en Saône-et-Loire, va demander de mettre la terreur à l'ordre du jour. Et pour se faire bien voir de la gauche, Danton va demander au moins une tête par jour. Et bien Robespierre va en effet accentuer sa politique de gauche. Et même, on va le voir, plus favorable aux gens d'ultra, les ultras c'est les extrémistes de la Révolution, qu'aux gens qui sont des indulgents. Des indulgents vont se manifester avec Camille Desmoulins, avec Danton dans la coulisse, et les ultras, c'est les hébertistes. Eh bien, en janvier, et en février, la situation militaire se rétablit, je vous l'ai dit, Et Mallet Dupont, qui est un jeune voix au service des princes, va communiquer à Lord Elgin, qui va livrer ça à Vienne, un très remarquable document, où ce Mallet Dupont, qui est un observateur, dit « Nous sommes obligés de reconnaître que les troupes des coalisés, enfin les troupes, c'est-à-dire autrichiennes et prussiennes, ne disposent que de ce qu'il appelle des soldats matériels, indifférents à la cause qu'ils défendent. Ce sont, comme je vous le disais, des robots, quoi, des Sénégalais ou c'est la Légion étrangère. Tandis qu'en face, les soldats de Robespierre sont pleins d'élan. Et il faut reconnaître que la politique de dureté à l'égard du maximum a donné des résultats, parce que voici que la signa remonte. Alors, Robespierre est encouragé à commencer d'indiquer le fond de sa pensée. Le fond de sa pensée, il l'a livré brusquement le 21 novembre 1993, lorsque s'est produit un mouvement inattendu et qui le contrarie beaucoup. C'est ce qu'on appelle le mouvement de la déchristianisation. Et les 10 dernières minutes de cet exposé, je veux les consacrer à la pensée philosophique de Robespierre. Robespierre est quelqu'un qui a été catholique pratiquant puis qui a cessé de l'être, mais quelqu'un qui est très enthousiasmé par Jean-Jacques Rousseau. Il est même allé voir, il avait 20 ans juste Jean-Jacques, quelques mois avant que Jean-Jacques ne meure, il était encore étudiant à Louis le Grand. Jean-Jacques était chez le marquis de Girardin à Ermenonville, et le jeune Robespierre, qui avait 20 ans juste, est allé voir Jean-Jacques Rousseau, qui sans doute a bien accepté de lui serrer la main. Il n'a pas fait un discours, mais c'était pour lui émouvant. Robespierre est quelqu'un qui est dans la ligne de la profession de foi du vicaire savoyard. Quelqu'un qui a parfaitement approuvé la saisie par la nation des biens nationaux. Quelqu'un qui a approuvé la constitution civile du clergé. Qui a même approuvé quelque chose qui me paraît déraisonnable, que les évêques soient élus par tous les laïcs du département, alors que... On pourrait croire que c'est réservé aux catholiques, non, tout le monde, si bien à ce moment-là c'était le sens. Donc ce sont les censitaires, c'est-à-dire les actifs, même s'ils sont incroyants, qui vont participer à l'élection des prêtres, des évêques, alors que les catholiques, qui sont en majorité des hommes du peuple, parce que l'athéisme est très aristocratique, eh bien ceux-là, les catholiques plébéiens, ne pourront pas voter. Pour vous dire à quel point Robespierre est conciliant. Il a été scandalisé par le refus de la moitié à peu près, la moitié du clergé français d'accepter la constitution civile du clergé, et soupçonne les prêtres non jureurs d'être tels pour des raisons politiques beaucoup plus que religieuses. Mais voilà que quand il voit un mouvement qui ne sort pas du tout de la plèbe, qui sort de grands bourgeois, comme Anacharsis Klotz, qui est un banquier prussien qui avait plus de 100 000 livres de rente, ou comme Léonard Bourdon, qui était un homme très considérable, ou comme des gens comme Marie-Joseph Chénier, qui n'avait pas à se plaindre du point de vue bourgeois. Nous savons aujourd'hui que c'est vrai. M. Soboul, qui était communiste, a fait une thèse très remarquable il y a une vingtaine d'années sur les sans-culottes parisiens du l'an 2. Et bien, M. Soboul a dit, je n'ai jamais trouvé un seul procès-verbal de réunion populaire demandant quoi que ce soit contre l'Église. C'était donc un mouvement de gens de bien, un mouvement de notables contre l'Église, appuyé par un homme comme Cambon. En particulier, il avait été décidé qu'on allait maintenant changer de calendrier, qu'on allait faire un calendrier républicain, et quand... L'évêque Grégoire, qui était un évêque jureur, avait demandé à Marie Chagny, ben je sais, qu'est-ce que vous voulez? Ce que nous voulons, c'est supprimer le dimanche, dit-il, pour que les gens n'aillent plus à la messe. Remarquez que c'était un grand avantage pour le patronat, parce que les ouvriers et les travailleurs, au lieu de travailler, de se reposer, tous les 8 jours, ne se reposaient que tous les 10 jours. Il n'y a plus de dimanche avec des décadis. Et Robespierre était extrêmement contre. Et puis, il y avait eu, brusquement, la décision de transformer Notre-Dame de Paris en temple de la raison. Et puis, il y avait encore, en plus, des mascarades, c'est-à-dire des défilés de gens costumés, en costume ecclésiastique, pour tourner ça en dérision, qui défilaient dans la chambre même, qui dansaient dans la convention. Et la loi, qui se trouvait, un ancien ami des Girondins, qui se trouvait à leur président, leur dit, en une demi-heure, vous avez détruit 20 siècles de superstition. Parce que le mot de superstition représentait la foi. Alors voilà, Cambon décide de faire voter que tous les établissements religieux, enfin toutes les églises, seront fermées, arbitrairement fermées et remises aux hôpitaux. Alors brusquement, Robespierre, qui jusqu'alors ne disait rien, intervient et dit « Je m'oppose de la manière la plus absolue à tout attentat à la liberté du culte. Je ne suis pas catholique, j'ai toujours été un mauvais catholique, ajoute-t-il, mais je ne veux pas que l'on persécute ceux qui croient. » Ça fait scandale. Et à ce jour-là, il ne se rend pas compte à quel point il se porte tort. Il faut vous dire qu'il avait déjà plusieurs fois manifesté des idées anti-encyclopédistes. Il n'aimait pas Condorcet, parce que Condorcet était l'ami de Voltaire, et il avait une fois, aux Jacobins, enlevé la parole à Palissot, qui parlait contre la confession en disant « ça ne nous intéresse pas ». Une seconde fois, il avait fait enlever le buste d'Helvétius, et publiquement, au mois de mai 92, dans le journal qu'il publiait, qui s'appelait Le Défenseur, publiquement, il avait dit « les gens comme Voltaire ou comme Diderot n'auraient pas été, s'ils étaient parmi nous, n'auraient pas été du côté du peuple ». Combien il nous reste ? 5 minutes ?
Oui, c'est à peu près.
Ah ben oui, bon. Alors, il va compléter cette affirmation du 21 novembre par un grand discours du 7 février, du 5 février, 5 février 94. Il a l'impression que les citras et les ultras, c'est-à-dire les gens indulgents ou les gens excessifs, se neutralisent les uns les autres, et il va commencer à dire ce jour-là le fond de sa pensée. Il faut comprendre que ce n'est qu'un prélude. Ce jour-là, il parle des idées morales qui doivent diriger la révolution. Et le 5 mai, il ira beaucoup plus loin, puisqu'il va parler des pensées religieuses qui doivent participer à l'organisation de la République. C'est aller très loin. Beaucoup trop loin, à mon sens. Robespierre est absolument déchaîné dans ceux qu'il appelle les apôtres du néant. Il dit, je veux bien combattre la superstition, mais je ne veux pas que l'on mette l'athéisme à la place de la superstition. Et il va décider ce jour-là, il va faire voter par une chambre qui lui est encore soumise parce qu'elle a peur des faubourgs, va faire voter article 1 de cette nouvelle décision. La France, la nation française, reconnaît l'existence de l'être suprême et de l'immortalité de l'âme. Si favorable que je sois à la pensée de Robespierre, si d'accord que je sois avec lui lorsqu'il déclare, il est absurde de dire qu'un peuple religieux ne peut pas être un peuple républicain, je ne peux pas manquer de vous dire que j'estime que Robespierre ce jour-là va au-delà du possible. C'est en somme une religion d'État qu'il propose. Eh bien, l'État n'a pas à se mêler de religion. Et Robespierre ne peut pas dire, la nation française reconnaît l'existence de Dieu, puisqu'il y a une partie de l'opinion publique française qui ne reconnaît pas l'existence de Dieu. Il va donc au-delà de ce qui est possible. Il ne se rend pas compte qu'avec sa fête de l'être suprême, qui aura lieu le 8 juin 94, et ce 8 juin 94, il sait très bien, il se souvient très bien, que dans l'ancien calendrier, c'est le jour de la Pentecôte, aura lieu la fête de l'être suprême, qu'on a souvent ridiculisé. Mais j'en ai lu le compte-rendu chez un homme qui avait 14 ans à ce moment-là, qui est Charles Nodier, qui n'est pas un passionné. Et Nodier se souvient de ce 8 juin 94 comme d'un jour merveilleux. Il dit c'était étonnant. Le ciel était complice, il faisait un temps splendide, il y avait un soleil radieux, et il y avait une espèce de bonheur dans le peuple. On avait l'impression que la terreur qui était violente, on tuait pas mal de gens, allait se terminer. Robespierre, qui était d'habitude triste et austère, portait un très gros bouquet tricolore qui lui avait été donné, je crois, par Éléonore Duplay, qui était amoureuse de lui, une des filles Duplay chez qui il habitait. Et Robespierre était tout heureux. Mais à la fin de la journée, lorsqu'il prononce son discours, lui, sur le lettre suprême, il entend pour la première fois monter de la convention, qui était là toute réunie, ce qui en restait, c'est-à-dire environ 560 députés, des protestations, des cris, des hurlements. Fouché se vantera plus tard d'avoir été un de ceux qui ont insulté Robespierre. Il en tombe de son haut. Il ne s'attendait pas à ce que du côté de la convention, on lui dise des choses pareilles. Alors il essaye de lutter en faisant voter deux jours plus tard la fameuse loi de Prairial, qui était une loi terrible. Une loi qui défendait à l'inculpé de présenter des témoins, une loi qui disait on n'a pas besoin de faits matériels, les faits moraux suffiront. Enfin, c'était un moyen de couper la tête avec une rapidité terrible aux gens. Robespierre voudrait, je crois, éliminer un certain nombre de gens. 5 ou 6, dira Couton, pas plus de 5 ou 6, mais en fait tout de même, d'aller très fort. Il a signé son arrêt de mort, figurez-vous ce jour-là, son arrêt de mort. Robespierre va être renversé par une coalition. Buonarroti dira la coalition des profiteurs d'une part et des voltairiens d'autre part. Il y a des tas de gens qui le détestent, en particulier les représentants en mission qu'il a fait venir, parce que ces représentants en mission se conduisaient très mal, comme Javogue en Saône-et-Loire, comme Dumont dans le Nord. Augustin Robespierre, son frère, avait été envoyé pour réparer les erreurs commises par ces révolutionnaires excessifs. Mais il y a aussi tous ceux qui se disent que Robespierre parle maintenant de paix. C'est vrai, puisque la France n'est plus envahie, et qu'il avait fait voter par la Convention une loi disant « La France ne traitera jamais avec un ennemi occupant un pouce de son territoire. » À partir de Fleurus, qui est du 27 juin 1994. Fleurus, il n'y a plus d'ennemis sur le territoire français. Alors maintenant, faisons la paix. Mais Robespierre ne pense pas à ceux qui avaient décidé de cette guerre, dont je vous ai dit que c'était une guerre rapide. Et il y a Carnot qui représente l'armée. Carnot, l'homme, soi-disant, des 14 armées, et qui dit « C'est pas possible, c'est au moment où la guerre commence à rapporter que vous voulez s'arrêter. » Si vous saviez quelles sont les dépêches que Carnot envoie, je vois une dépêche à Pichegru, où il lui dit « Vous êtes en Belgique, eh bien prenez tout, il faut vider le pays. » en Rhénanie, il fait organiser ce qu'il appelle des bureaux d'évacuation pour prendre tout ce qui est de richesse possible. À nos représentants de mission qui sont à l'armée du Nord, il leur dit « Montrez à vos soldats les richesses de l'Allemagne ». Ben, c'est exactement ce que va faire Robespierre le 10 avril 96, lorsqu'à la tête de son armée d'Italie, il va dire à ses soldats, soldats, vous êtes mal chaussés, vous êtes mal nourris, mais voyez devant vous ces belles villes de la Lombardie où vous allez pouvoir entrer. Ça, c'est cette guerre de pillage. Robespierre, vous allez l'annuler. Il a fini son arrêt de mort. Signé son arrêt de mort. Pas la peine que je vous raconte la fin, tout le monde le sait. Le 26, lui qui ne va plus jamais au comité de la République, le 26 juin, il prend la parole et il attaque. C'est un curieux discours, incohérent du reste, un discours qui est à la fois un défi et un cessement. Il va attaquer nommément, lui dit nommer les gens. Eh bien j'attaque nommément M. Cambon, dit-il, qui favorise les riches et désespère les pauvres. Et puis vous savez que le lendemain, Saint-Just va essayer de commenter le discours de Robespierre, que le complot est organisé, qu'on s'est entendu avec la plaine, le marais, qui ne supporte Robespierre que parce qu'on a peur de lui. On s'est arrangé pour que la petite plèbe se sépare de Robespierre, on a inventé un nouveau maximum, qui est le maximum des salaires, si bien qu'on peut y aller. Et le 27, Robespierre est brusquement renversé. Il pourrait se sauver, on l'a libéré, la commune l'a libéré, mais il refuse de participer à quoi que ce soit, qu'il soit à défusion de sang pour lui, c'est pas la peine, c'est perdu, dit-il. Et vous savez qu'on lui cassera la mâchoire par un coup de pistolet dans la nuit du 27 au 28 juillet. Il va être tué le 28, puis le 7-9 Thermidor. Mais vous savez, la mort de Robespierre est une chose saisissante, parce que j'ai lu le commentaire des médecins. Il a eu la mâchoire cassée à 2h du matin, c'est à 6h seulement que les médecins sont venus. J'ai vu le rapport, Michelet a publié. Et ils disent, on lui a fait certainement beaucoup de mal. Nous lui avons enlevé un petit peu de la mâchoire, on lui a enlevé des dents et des os. Il a dû souffrir terriblement. Il n'a pas poussé un seul gémissement. Et il gardait les yeux fixés sur le plafond. Savez-vous, je ne suis pas persuadé qu'il fût particulièrement attentif aux moulures du plâtre. C'est un homme qui était profondément croyant. C'est quelqu'un dont on nous dira, c'est un voyageur allemand. Vous savez, dans cette maison des Duplets où il habitait, on était très pieux. C'est un voyageur allemand qui nous donnera son signe en 95. On faisait la prière avant tous les repas. Et c'était Robespierre qui faisait la prière. C'est pourquoi que Danton appelait les Duplets une jésuitière. Le 9 Thermidor, c'est le prélude du 18 Brumaire. Le 9 Thermidor, ce sont les gens favorables au sens, CENS, qui vont revenir au pouvoir. Dans cette convention même, Boissy d'Anglas va se faire applaudir en disant une nation gouvernée par les propriétaires est dans l'ordre naturel, et nous allons, avec Napoléon, de l'Isidre Brumaire, commencer l'ère qui n'est pas encore terminée, où l'argent sera le roi.
Il a parlé une première fois de Robespierre à France Culture, c'était pour une espèce de portrait assez sommaire. Tandis qu'aujourd'hui, je voudrais le regarder, ce personnage assez énigmatique, de très près, entre deux dates précises, qui sont le 8 juin et le 27 juillet 94. D'abord, il faut savoir que Robespierre était sur la brèche, pratiquement, depuis la convocation des États généraux. Mais il n'avait pas pu faire grand-chose. J'ai déjà parlé de lui, je vous ai raconté comment à la Constituante, on lui fermait la bouche lorsqu'on ne voulait pas entendre encore Robespierre défendre la cause des pauvres. Bon, maintenant, il est député, puisqu'il n'était plus pendant la législative. Et il est député depuis septembre 92, député à la Convention et représentant de Paris. Il s'est aperçu tout de suite qu'il avait contre lui l'animosité féroce, je dois dire féroce, des Girondins, et particulièrement du ministre de l'Intérieur, qui s'appelle Roland, je vous l'ai dit. Roland avait constitué ce qu'il appelle un bureau de formation de l'esprit public, répandant à travers la France, à prix d'or du reste, toutes sortes de libelles, d'articles, de petits bouts de papier contre Robespierre, disant que c'était un anarchiste, disant que c'était quelqu'un qui visait à la toute-puissance. Robespierre avait été très impatienté, mais il ne pouvait rien faire contre ces Girondins, et il s'était aperçu tout de même qu'au mois de mai, 93, ils allaient un peu fort. Figurez-vous qu'ils étaient tellement effrayés par ce qui se passait à Paris, les communes insurrectionnelles, les faubourgs, qu'ils avaient commencé à appeler à l'aide, vous m'entendez bien, les provinces dont ils étaient représentants. Un homme comme Vergniaud s'était adressé pathétiquement à ses commettants, généreuse population de Bordeaux, braves habitants de Bordeaux, plus une minute à perdre, levez-vous, sous peine de voir se dissoudre tous les liens sociaux à Paris. Et puis, vous vous rappelez le manifeste de Brunswick, où les Austro-Prussiens disaient « Si on se conduit mal à l'égard du roi, Paris sera livré à une entière subversion. » Eh bien, le député français Isnard, parce qu'il avait peur de Paris, disait « S'il y a des atteintes à la propriété dans Paris, toute la province s'élèvera, on anéantira, vous entendez, on anéantira Paris. » Et comme il avait le sens du lyrisme, il disait « Et dans un siècle, un promeneur des bords de la Seine se demandera si jamais une ville a existé là. » C'était un peu fort, hein, c'était du 25 mai. Alors Robespierre approuvera le soulèvement populaire qui va se produire les 30 mai et 2 juin. Il y aura une manifestation redoutable. La garde nationale d'Henriot va cerner la convention et la convention elle-même va s'amputer de 32 députés girondins. C'était déjà intéressant, mais tout de même, Robespierre ne veut pas monter au pouvoir parce que il a un peu peur des responsabilités et parce que, j'y insiste beaucoup, sa santé est une santé atteinte. Je ne sais pas, au fond, ce qu'il avait. Dans un langage contemporain, on pourrait dire probablement une tuberculose pulmonaire, je crois. On parlait à cette époque de phtisie. Toujours est-il que Robespierre est un homme de mauvaise santé qui est très souvent obligé de s'arrêter, et vous allez le voir, bientôt s'arrêter gravement. Alors le 10 juillet, le comité de salut public qui avait été créé le 6 avril, le 10 juillet, le comité de salut public est renouvelé, comme il est renouvelé chaque mois. Le principal personnage du comité de salut public s'appelait Danton. Et puis Danton vient de déclarer qu'il ne veut plus être réélu. On nous a raconté quelquefois, il y a des livres qui disent que Danton a été exclu. Non, 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 il n'a pas été exclu, il a fait savoir, ne votez pas pour moi, je ne veux plus faire partie du comité de salut public. Alors on se pose la question, enfin, je sais bien qu'il a une présentation particulière, Danton, il dit aux gens, écoutez, je viens de me remarier. C'est vrai, il avait perdu sa femme en février 93, il s'était remarié au mois de juin, le célibat lui paraissait difficile, c'était tout seul, puis enfin, il y avait deux gosses, et alors il disait, parce qu'il était très gaillard, vous savez, il tapait sur le ventre des gens, les tutoyant, et en leur expliquant des choses très précises, il leur dit, vous savez, la petite que j'ai épousée, hein, elle a même pas 16 ans, alors vous vous rendez compte, hein, j'ai toutes sortes de choses à lui apprendre, alors foutez-moi un peu la paix, laissez-moi tranquille avec ma petite femme. En réalité, la situation était telle, la situation était si dramatique, et nous allons le voir, que je suis convaincu que Danton cherchait à s'esquiver, se placer en coulisses, parce qu'il avait peur de ce qui allait se produire. Situation dangereuse, eh bien, je vous assure que c'était vrai. Premièrement, les Austro-Prussiens avaient fini par attaquer. Ils avaient attaqué le 1er mars, et pour de bon. Ils avaient attaqué du côté d'Aix-la-Chapelle et avaient culbuté la petite armée de Miranda, parce qu'à ce moment-là, Dumouriez, qui était le grand chef, était en Hollande. Dumouriez était revenu en hâte, il s'était fait battre à Neerwinden le 18 mars, je crois. Et vous savez peut-être, ou vous savez pas, que Dumouriez avait trahi d'une manière monstrueuse. Lafayette, lui, il n'avait pas voulu servir la République. Alors il avait simplement démissionné, il s'était fait faire prisonnier par les Autrichiens. Tandis que Dumouriez, il passe à l'ennemi en offrant, écoutez bien, en offrant son épée à l'ennemi. Il dit, mais je veux bien être à vos ordres et combattre les Républicains. C'est énorme, hein. Eh bien, ça n'empêche pas que ce même Dumouriez, vous n'avez qu'à vérifier la chose, il a son nom inscrit sur l'arc de triomphe de l'étoile parmi les grands soldats de la République. Passons. La situation militaire est donc terrible, la Belgique a dû être évacuée, la Rhénanie qu'on avait conquise assez facilement est évacuée aussi. Il n'y a que la ville de Mayence qui tient bon. Les Anglais ont envoyé un contingent autour de Dunkerque. La province se soulève. Il ne faut pas oublier qu'à la Vendée, ça existe déjà. C'est le 11 mars, vous entendez, le 11 mars 93, qu'à Machoukoul, la guerre de Vendée a commencé. Et elle a commencé comment? Eh bien, elle a commencé par un carnage de républicains. Ce jour-là, le 11 mars à Machoukoul, les fonctionnaires républicains ont été massacré, exactement, massacré, oui, par la réaction royaliste. Et pourquoi? On dira plus tard, c'est dans un sentiment royaliste ou catholique. Pas du tout. À ce moment-là, il y avait une première levée d'hommes. 300 000 hommes devaient être levés. Et ces Bretons et ces gens de l'Ouest qui ne parlaient même pas la langue du reste de la France disaient, mais qu'est-ce que c'est? On n'a pas envie du tout d'aller se faire tuer pour des idées qui ne sont pas les nôtres. Bon, toujours est-il que la Vendée était en feu. Et puis les Girondins. Quelques-uns s'étaient échappés, et puis d'autres qui restaient en province avaient contribué à soulever la France provinciale contre Paris. Figurez-vous qu'à la fin de juillet 93, 60, vous m'entendez, 60 départements sur les 83 étaient en révolte. Et Lyon était dans une révolte militaire même, il va falloir envoyer des soldats. Ce qui veut dire que la situation est extrêmement dramatique, et quand le 10 juillet, on renouvelle le comité de salut public, trois amis de Robespierre y figurent. C'est Saint-Just d'une part, Couthon d'autre part, et un troisième qu'on oublie trop, qui s'appelait Bon-Saint-André, qui s'est occupé surtout de Marine, et puis qui s'est tiré l'affaire, qui lui n'a pas été guillotiné, donc son souvenir s'est un peu effacé. Mais les deux amis principaux, Couthon et Saint-Just, sont là. Et ils ont même fait quelque chose, ils ont fait quelque chose d'intéressant. Ils ont enfin détruit le rachat des droits féodaux. Je vous ai raconté la première fois que la nuit du 4 août, on avait fait croire aux paysans que les droits féodaux s'étaient terminés, qu'ils étaient rachetables. Je vous avais indiqué dans quelles conditions ils étaient rachetables. La législative même avait dit, mais non, il y a des papiers, il y a des parchemins qui prouvent les droits féodaux qui existent. Eh bien, le comité de salut public, avec les trois robespierristes, décide que c'est fini, qu'on ne parlera plus de parchemins, que les droits féodaux sont enfin terminés. Robespierre refuse de venir. Pourquoi ? Il y a diverses explications, mais j'en vois deux. Il y en a une, certainement, qui tient à ta santé. Parce que le 12 juin, et nous sommes le 10 juillet, le 12 juin, au Jacobin, il a dit, vous savez, ça va plus. J'ai l'impression que je vais être obligé de démissionner. Il veut donner sa démission parce que sa santé ne lui permet pas. Deuxièmement, il a peur aussi de ses responsabilités, peur de ne pas être à la hauteur. Et je suis sûr également qu'il a été préoccupé par cette idée qu'on avait lancée dans l'opinion publique. Vous savez, Robespierre, c'est un avide, c'est un homme qui veut la toute-puissance. Alors il veut prouver qu'il ne vise en aucune façon à la toute-puissance en n'acceptant même pas une place au comité de salut public. 10 juillet. 27 juillet, le même mois, une vacance se produit. Il y a une démission au comité de salut public. Alors les trois amis sont là qui lui disent, écoutez Robespierre, ou écoute, puisqu'il se tutoyait, tu peux pas refuser, il faut que tu viennes. Et ce 27 juillet 93, Robespierre va céder et va rentrer au comité de salut public. Qu'est-ce qui s'est donc passé en lui? Sa santé ne s'est nullement améliorée. Mais j'ai une idée, je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais j'ai une idée. Le 13 juillet, il avait refusé le 10, hein, le 13 juillet, Marat a été assassiné. Et vous savez dans quelles conditions, assez affreuses. Cette Charlotte Corday, que l'on fait passer pour une héroïne, c'est une fille qui a utilisé la bonne volonté, la générosité de Marat pour s'approcher de lui. Elle lui a fait remettre un petit papier disant « Je sais qu'il suffit d'être malheureux pour que vous accordiez audience. » Il était dans son bain parce qu'il est toujours couvert d'ulcères. Alors elle arrive toute souriante puisque elle a dit qu'elle est très malheureuse. Et immédiatement elle tire ce poignard et comme il est tout nu, elle lui enfonce évidemment le poignard dans le cœur. Elle a bien étudié la question. Bon. Alors Robespierre s'est dit « Ça c'est une mort intéressante. Robespierre, je vais probablement, non, un an ou deux, peut-être avant, mourir bêtement dans mon lit. » Tandis que Marat, l'assassinat de Marat, mais ça sert la République. Marat est devenu un martyr de la République. Eh bien moi, je vais accepter. Je suis convaincu que les poignards me menacent aussi, il va le dire, le 14 juillet, il le dit. Convaincu que les poignards me visent moi aussi, j'accepte. Pratiquement, c'est la Robespierre qui se fait cible, qui sait qu'il va tout risquer, eh bien c'est d'accord. Alors voilà, Robespierre, au comité de salut public, nous sommes le 27 juillet 93, il va tomber le 27 juillet 94, alors vous avez calculé, il lui a exactement un an et un jour, parce qu'on va le tuer le lendemain 28, il a un an et un jour devant lui pour travailler. Eh bien, il va travailler. Je vous assure qu'il ne va pas plaindre sa peine, comme on dit, il va, si je puis dire, en mettre un coup. La situation militaire est donc très grave, comme vous avez vu. Eh bien, lui qui avait été hostile à l'idée de la guerre, dit, puisque c'est la guerre, il faut la gagner. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire décider une mobilisation générale, au mois d'août. On appelle ça la levée en masse, avec interdiction du remplacement, parce que Danton s'arrangeait toujours avec les gens considérables. Il avait dit qu'un riche qui serait mobilisé pourrait accepter de ne pas y aller en payant à sa place un pauvre, ce qui était monstrueux. Eh bien, Robespierre décide qu'il n'y aura plus de remplacement militaire. Et puis il va décider aussi qu'il y aura un amalgame maintenant, c'est-à-dire que dans l'armée française, il y avait un certain désordre entre les vieux soldats de la ligne qui étaient en habit blanc et les nouveaux volontaires qui étaient en habit bleu. Et les habits bleus avaient des avantages, c'est vrai, ils avaient une solde un peu supérieure et ils avaient le droit d'élire leurs officiers. Alors Robespierre a fait décider que maintenant tout le monde porterait l'uniforme bleu et que les avantages donnés aux volontaires sont accordés aux gens de la ligne. L'unité révolutionnaire, l'unité militaire était retrouvée. Puis figurez-vous qu'il va faire autre chose, qu'on n'avait jamais osé faire et que je crois qu'on ne reproduira guère. D'habitude, quand il y a un échec militaire, oh, c'est la troupe, hein, c'est les soldats, ils ont manqué de courage. Alors Robespierre en a assez de voir que c'est toujours le soldat accusé. Il dit, mais les responsables tout de même, les généraux, on pourrait tout de même agir contre eux. Eh bien, figurez-vous qu'il va faire des fournées, vous entendez, des fournées de généraux qui vont passer à la guillotine. Ça ne se reverra plus jamais. J'ai envie d'ouvrir ici une très rapide parenthèse. Qui est récente, hein, c'est du 26 mai 1940. vous savez peut-être que Pétain avait été appelé au pouvoir le 16 mai 40, et puis il y a eu le désastre que vous savez, et Paul Reynaud, qui était président du Conseil, avait dit qu'il avait l'intention de prononcer des sanctions contre les généraux qui avaient mal organisé les défenses devant Verdun et qui avaient permis la trop facile avance allemande. Il y en avait un qui était particulièrement visé, et c'était Anziger. Eh bien, Pétain lui écrit le 26 mai 40 une lettre que je connais, qui a été peu reproduite, une lettre terrible, où Pétain, ministre de la Guerre, annonce à Paul Reynaud, je démissionne, je fous le camp, je suis plus avec vous si vous touchez à mes généraux. On ne touche pas aux généraux, c'est défendu. Eh bien, Robespierre, il touche. Et même, il va faire une circulaire avec Saint-Just, que j'aime beaucoup, qui est peu connue et que voici. L'insubordination des généraux est la pire dans une république. Dans un État libre, c'est le pouvoir militaire qui doit être le plus astreint. Ben, il a raison, parce que si vous regardez ce qui se passe, pas quoi, en Asie, en Amérique du Sud ou en Afrique, il y a tout le temps des coups d'État. Hein. Ces coups d'État sont faits par qui? Mais toujours par l'armée. Parce que les dirigeants de l'armée sont les gens qui ont la puissance entre les mains. Ce sont eux qui ont les tanks. Alors quand on a les tanks, on peut y aller. Alors Robespierre se méfie et dit l'insubordination des généraux est la pire. Ben, vous savez, ça va réussir. Ça va réussir. Pour le prendre, des victoires vont se produire, on n'y s'attendait pas. Il y aura la victoire de Hondschoot qui va délivrer Dunkerque, et la victoire de Wattigny qui va délivrer Maubeuge. La signal a remonté, parce que Robespierre avait accepté, en septembre, des choses qui lui paraissaient incertaines, mais enfin, il avait pensé, sous la contrainte de la population, il avait pensé qu'il fallait le faire. Il avait fait entrer au comité de salut public deux républicains très affirmés, qui étaient Collot d'Herbois et qui étaient Billaud-Varenne. Il avait accepté surtout le maximum. De quoi s'agissait-il? Ben, le maximum des denrées, on ne payerait pas au-delà de tant. Et il avait fait ça d'une manière intelligente, et c'est la première fois qu'on s'occupait un peu sérieusement des pauvres gens, quoi. On avait décidé, grâce à Robespierre, qu'il y aurait une augmentation du prix des denrées et une augmentation des salaires. Le prix des denrées pouvait être augmenté d'un tiers, vous m'entendez? Un tiers par rapport à 1990, mais les salaires devaient être augmentés de la moitié. Par conséquent, avantage donné à la petite plèbe. Eh bien, ça a bien réussi, parce que peu à peu, on s'apercevait que la Signa reprenait. La Signa était tombée très bas, il avait perdu 60%, il va remonter, il va atteindre 35%, c'est-à-dire, pour avoir 75 francs en numéraire, il faut seulement donner 100 francs en assignat, ce qui était possible. La chose la plus saisissante, c'est un document qui nous est parvenu de ce fameux Mallet du Pan dont je vous ai déjà parlé. Mallet du Pan, c'est un Genevois qui s'est mis au service des princes. Les princes, c'est le futur Charles X, le futur Louis XVIII, et au service de la cour de Vienne. Et il envoie à la cour de Vienne, ce monsieur Mallet du Pan, une note saisissante. Où il dit, vous avez vu, hein, on a eu un succès, à Hondschoot, à Wattigny, on s'est fait battre. Pourquoi? Parce que nous ne disposons, la bonne cause, quoi. Nous ne disposons, écrivait-il, que de soldats matériels, c'est-à-dire des mercenaires, qui sont indifférents à la cause qu'ils soutiennent. Tandis que les armées républicaines, ce sont des gens pleins d'enthousiasme, il l'a dit, d'enthousiasme. Des gens qui y croient, quoi, des gens qui en veulent. Et même, figurez-vous, que M. Pitt, en Angleterre, va parler des soldats de Robespierre. Vous imaginez les jalousies que ça va produire autour de lui. Ce ne sont pas les soldats de Robespierre, ce sont les soldats de la République. Robespierre a de l'ascendant, il a du prestige, mais il est très loin d'être tout puissant. Oh non, il ne vise pas du tout à la dictature. Et même l'idée que Robespierre a été tout puissant au comité de salut public, c'est une idée fausse. Je vais vous en donner deux preuves. Il n'aurait pas voulu qu'Elisabeth, c'est-à-dire la sœur du roi, la grosse Babet, comme disait Hébert, passa à la guillotine. Ben, il a beau essayer de s'y opposer, on fera passer Babet à la guillotine. Deuxièmement, en décembre, Robespierre essaye d'établir des comités de clémence ou comités de justice parce que il a le sentiment que parmi les quelques 100 000 ou 200 000 suspects, il y en a qui sont là injustement et il voudrait qu'on examine les choses un par un. Comme Collot d'Herbois a pris ça très mal, le 26 décembre, Robespierre retire la proposition du 20 décembre. Donc, Robespierre n'est pas tout puissant, tant s'en fout. Mais enfin, ça marchait pas trop mal pour lui quand soudain, se produit en octobre et novembre 93, quelque chose de, pour lui, tout à fait inattendu. C'est ce qu'on appelle la campagne de déchristianisation. D'abord, il faut que vous sachiez qu'il y avait un certain nombre de gens qui avaient une arrière-pensée quand ils sont entrés dans la Révolution. Il y a des gens comme Mirabeau qui disaient « La Révolution n'aura de son vrai sens que si elle déchristianise la France ». Mirabeau se déclarait personnellement athée avec délice, mais le marquis de Sade, qui lui était, comme vous savez, le divin marquis, disait mieux « Moi, je suis athée avec fanatisme ». Il faut savoir que les Girondins étaient des gens parfaitement déterminés à faire disparaître le culte. Même M. Isnard, dont j'ai déjà cité le 25 mai une phrase terrible contre Paris, Isnard disait « Il faut accélérer les convulsions trop longues de l'agonie de la superstition ». Superstition, on sait ce que ça veut dire. Tous ces gens-là appartiennent à l'esprit de l'encyclopédie. Et ce n'est pas moi qui parle, c'est Jaurès. Jaurès, dans son histoire socialiste de la Révolution, dit « Le fond de la pensée de l'encyclopédie, c'était de éradiquer, je vais arracher les racines, hein, éradiquer le christianisme. » C'est ça qu'ils veulent faire. Eh bien, c'est évident qu'il y a des gens autour de Débert et autour de beaucoup d'autres, et autour des Girondins, qui veulent effectivement faire disparaître le christianisme. Et M. Soboul, qui est mort maintenant, qui a été le successeur de Mathias à la Sorbonne, qui était marxiste, et qui a fait une thèse très remarquable intitulée « Les sans-culottes parisiens de l'an 2 », M. Soboul a beau être marxiste et athée personnellement, il a insisté dans sa thèse sur le fait « Je n'ai trouvé dans aucun papier des réunions populaires ou des assemblées, oui, populaires, aucun texte prouvant qu'on avait l'intention de se jeter contre le christianisme. Tout ça est venu d'un milieu bourgeois. » Et voici les noms. C'est Marie-Joseph Chénier, d'une part. C'est Anacharsis Klotz, qui était ce banquier allemand qui avait 100 000 francs de rente. C'est aussi Léonard Bourdon, qui était un homme qui était fort aisé. C'est du côté de cette bourgeoisie opulente qu'est parti le mouvement des christianisations. Ça a commencé comment? Ça a commencé avec Marie-Joseph Chénier qui décide de faire transformer le calendrier. Plus de calendrier ancien parce qu'il y a des fêtes religieuses qui n'ont plus de sens, parce qu'il y a des noms qui ne signifient rien. Plus de repos tous les 8 jours parce qu'il faut que les gens travaillent un peu davantage. On appellera ça pas des semaines, ça sera des décades. Et il y aura plus de dimanche, mais ça sera un décadi. Et puis, quand on lui demande, mais pourquoi voulez-vous ça? C'est l'évêque Grégoire qui est un républicain. L'évêque Grégoire lui demande, mais enfin, pourquoi? Pour supprimer le dimanche, dit-il carrément. Pour déshabituer les gens d'aller à la messe. Bon, soit. Robespierre était contre, mais il va voter tout de même, le calendrier républicain. Et puis voilà que le 7 novembre, c'est pour dire quelque chose de plus, visité dans la nuit par ce Léonard Bourdon et cet Anacharsis Klotz, l'évêque constitutionnel de Paris, qui s'appelait Gobel, le 7 novembre, va se déprêtriser. Il dit, c'est vie, je ne suis plus curé, je ne suis plus évêque, rien du tout, en même temps que tous ses vicaires. On ne sait pas à quoi il a cédé, des menaces ont été faites contre lui, toujours est-il qu'il se déprêtrise. Et les déprécisations vont se multiplier. Ça, c'est le 7 novembre. Le 10 novembre, brusquement, la commune a décidé que l'église Notre-Dame de Paris n'était plus une église, mais que ce sera le temple de la raison. Et c'est incorporé, hein, la convention tout entière qui va se déplacer pour aller assister à la fête de la raison dans l'ancienne cathédrale qui n'est plus maintenant Notre-Dame de Paris, qui est le temple de la raison. Il y a une commune de Seine-et-Oise qui s'appelle Mennecy, qui décide de la fermeture délibérée, définitive de son église. Monsieur Barrère en parle à la tribune de la Convention, il dit, mais c'est très bien, et je vais faire une circulaire à toutes les communes de France, disons qu'elles ont le droit d'imiter la commune de Mennecy. Et Cambon, qui est le spécialiste des questions financières, Cambon, qui déteste Robespierre, Cambon, qui avait déjà demandé en 92 que l'on annulât les subventions au clergé, et pourtant, quand on leur avait pris tous leurs biens, c'était naturel que l'État les entretienne. Cambon avait demandé la suppression, carrément la suppression, du budget ecclésiastique. Et maintenant, voilà qui dit, on va fermer toutes les églises de Paris, on va les désaffecter entièrement, et on va les remettre aux hôpitaux comme annexes. Alors, le 21 novembre, tout à coup, aux Jacobins, Robespierre intervient pour un stop. Il dit, c'est pas possible. Au nom du comité de salut public, je déclare que la liberté du culte est une chose à laquelle je tiens profondément. Et pour qu'on ne se trompe pas sur sa conscience et sa pensée, il dit, vous savez, j'ai toujours été un assez mauvais catholique. Hein. Quand j'étais étudiant, j'ai cessé de pratiquer. Et j'ai beaucoup de griefs à faire au catholicisme. Mais je ne veux pas que sous prétexte de combattre les excès de la superstition, les gens à scapulaire, comme il dit, je ne veux pas qu'on établisse le règne de l'athéisme. Il va aller encore plus loin, puisque quelques jours plus tard, le 28, parlant cette fois non plus aux Jacobins, mais à la Convention, il va dire « Je n'accepterai jamais que l'on oblige les gens à cesser de croire en Dieu. Liberté de conscience avant tout. » C'était assez courageux parce que vous savez qu'il était guetté déjà par pas mal de gens et qu'il avait déjà donné des signes inquiétants. Pensez donc qu'en décembre, je crois, oui, en décembre 92, il avait fait ôter de la salle des Jacobins le buste de Helvétius. Ça vous dit peut-être plus rien, Helvétius. Mais Helvétius, c'était l'homme qui avait écrit de l'esprit pour indiquer que tout est matériel, tout est matérialiste, que l'esprit est une naïveté et une inexistence. Et Helvétius et Lamétri étaient les deux théoriciens du matérialisme. Et Robespierre avait expliqué, mais vous savez, rappelez-vous ce qu'était Helvétius. C'était un fermier général. Vous savez comment s'enrichissaient les fermiers généraux? Ils s'enrichissaient par le vol, pratiquement. Eh bien, figurez-vous, soyez bien convaincus, disait Robespierre, que si Helvétius vivait de nos jours, il ne serait pas avec nous, révolutionnaire, il serait contre nous. Et il en avait une bonne preuve, c'est que l'abbé Raynal, l'ex-abbé Raynal, qui en 1776, je crois, avait été entouré de gloire par l'encyclopédie, parce qu'il avait publié un texte qui s'appelle « Histoire philosophique des deux Indes », Voltaire l'avait porté au nu, l'abbé Raynal avait écrit un texte très violent contre la Révolution pour dire que tout ça était des absurdités. Alors Robespierre dit, mais vous voyez bien, les héritiers de l'encyclopédie sont des gens qui sont contre nous. Et il a tellement raison, et je vais souligner ça devant vous parce que c'est très important, un monsieur comme Gaxot, qui a fait en 1929 un livre contre la Révolution et qui a eu beaucoup de succès. Gaxot a osé écrire, les encyclopédistes étaient des égalitaires. Eh bien, il se trompe bien. Parce qu'il faut savoir ce que pensait Voltaire, il l'a dit dans son essai sur les mœurs, de la manière la plus limpide. Robespierre dit, un pays bien organisé, je vais doucement parce qu'il faut retenir ça, hein, un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui, et le gouverne. Ben, c'est une morale d'entretenu, quoi. Et il faut savoir aussi que Diderot, qui rédigera lui-même l'article représentant dans l'encyclopédie, dira les seuls représentants concevables sont des propriétaires. Donc Diderot, le révolutionnaire Diderot, est en réalité un partisan du suffrage censitaire. Robespierre le sait très bien, et il veut qu'on le sache. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas le savoir, parce qu'ils sont des fanatiques de ce qu'on appelle les Lumières. Ces fanatiques des Lumières ont repéré Robespierre depuis longtemps. Il y a Gadet, par exemple. Gadet qui était un Girondin, qui va attaquer Robespierre parce que Robespierre a parlé du mot Providence. Et lui, il dit, je sais pas ce que vous voulez dire, le mot Providence n'a aucun sens. Et puis il y a mieux, il y a Condorcet qui est un ami personnel de Voltaire, qui dans sa chronique de Paris le 9 novembre 92 va dire, je l'ai compris Robespierre, j'ai vu qui c'était. Robespierre n'est et ne sera jamais qu'un prêtre. Et puis vous avez mieux encore, vous avez le 3 janvier 93, Chansonnet, qui était un des Girondins de base, puisqu'il est vraiment bordelais, qui dit, la liberté a elle aussi ses tartuffes, on les reconnaît à leur haine pour les Lumières. Non, non, il n'a pas de haine pour les Lumières, mais Robespierre est absolument décidé à maintenir la liberté de conscience. Et il va intimider les gens, hein. Un type comme Hébert ou comme Chaubet, qui allait très loin du côté de l'athéisme, bon, faire machine arrière. Il a devant lui, ce pauvre Robespierre qui croyait qu'avec les Girondins, on avait éliminé les factions, il a devant lui deux factions. Il y a la faction des ultras et la faction des citras. Ultra, c'est un mot que Danton a inventé lui-même. Les ultras, ce sont ceux qui sont des ultra-révolutionnaires, qui vont trop loin, qui effectivement peuvent aller jusqu'à l'anarchie. Et Robespierre n'en veut pas. Mais il ne veut pas davantage de ceux qui s'appellent plus exactement les indulgents. Les indulgents, ils sont conduits par Camille Desmoulins et son nouveau, sa publication qui s'appelle le Vieux Cordelier, Danton est derrière, et qui voudrait bien stopper la révolution parce qu'ils ne veulent pas une révolution qui aille trop loin et qui mette en cause l'essentiel, c'est-à-dire la sécurité des fortunes. Alors Robespierre, très habilement, fait des méandres assez astucieux, jouant d'une faction contre l'autre, et au début de février 94, il a l'impression, puis d'autre part il a peur de sa santé qui est si mauvais, il a l'impression qu'il faut aller au fond de sa pensée. Il va faire ça en deux temps. Hein. Alors le 5 février 94, il va faire un grand discours où il va expliquer ce qu'il appelle les droits de la morale dans la vie publique. Il y a un monsieur Serge Bianchi, il y a quelques années, qui a publié un bouquin intitulé La Révolution culturelle en 94. C'est inexact, c'est se tenir à la surface des choses. En réalité, ce que fait Robespierre ce jour-là, c'est d'expliquer ceci. Même si on fait de très profondes réformes de structure, on n'arrivera à rien tant qu'on n'aura pas changé le regard des hommes sur l'emploi de la vie. Vous savez, je suis un peu renseigné sur Mao. La révolution culturelle a été lamentable. Mon fils, qui était à ce moment-là attaché culturel à Pékin, m'a donné des détails très précis sur ce qu'avait voulu Mao. C'était très noble au départ. Ça a très mal tourné, je viens de vous le dire, mais très noble. Mao disait, je voudrais pas qu'en Chine on fasse ce qui s'est passé en Russie depuis tant d'années. Il dit ça en 1966. Hein. Il y a une langue de bois en Russie, il y a une nomenclature. Je veux pas de ça. Et il va lancer les petits jeunes gens, vous savez, les écoliers, qu'il appelle tous des petits gardes rouges, contre les états-majors en disant, il faut qu'on retrouve le premier souffle de la révolution. Il faut pas laisser une révolution sans qu'il ose. Il faut retrouver une âme commune. Et il va dire, lui qui ignorait complètement le christianisme, il va dire, il faut une naissance nouvelle. Ben figurez-vous, c'est ça que Robespierre essaye de dire le 5 février. Et j'ai recopié ici l'essentiel de ces affirmations. Il dit, nous voulons un ordre de choses où les mauvaises passions seront dominées, où la morale sera substituée à l'égoïsme, les principes substitués aux usages, le devoir aux bienséances, la fierté à l'insolence, la grandeur d'âme à la vanité, les braves gens à la bonne compagnie. Et ça se terminait comme ça, je veux une cité où toutes les âmes s'agrandiront. Et il ajoutait ce même jour qu'il fallait respecter la vertu. Oh, je sais bien les sourires que ce mot peut provoquer. Ça fait un mot un peu fané, on n'ose presque plus le prononcer. Mais à diverses reprises, Robespierre s'est exprimé sous ce qu'il mettait sous le mot vertu. La vertu, pour moi, disait-il, c'est la générosité, c'est la solidarité, c'est la grandeur d'âme, c'est la magnanimité, disait-il. Et ce qu'il faut, si on veut espérer que la révolution réussisse, il faut inspirer aux gens le sentiment de la générosité fraternelle. Il faut leur dire que le but de la vie n'est pas simplement une réussite personnelle. Il faut leur faire espérer quelque chose de collectif.
Après avoir parlé de vertu, il va parler de terreur. Et c'est vrai. Saviez-vous qu'en septembre, je vous en parlais, il y avait eu des mouvements révolutionnaires. En septembre, un abbé constitutionnel avait dit, il faut mettre la terreur à l'ordre du jour. Mais quoi la terreur? Quoi le tribunal révolutionnaire? Depuis quand existe-t-il? Le tribunal révolutionnaire existe depuis le 10 mars 91. Et qui l'a inventé? C'est Danton. Danton se trouvait à ce moment-là dans une situation dangereuse. Alors pour se blanchir, il avait inventé de faire du rouge et il avait demandé la création d'un tribunal révolutionnaire. Après avoir parlé de vertu, il va parler de terreur. Et c'est vrai. Saviez-vous qu'en septembre, je vous en parlais, il y avait eu des mouvements révolutionnaires. En septembre, un abbé constitutionnel avait dit, il faut mettre la terreur à l'ordre du jour. Mais quoi la terreur? Quoi le tribunal révolutionnaire? Depuis quand existe-t-il? Le tribunal révolutionnaire existe depuis le 10 mars 91. Et qui l'a inventé? C'est Danton. Danton se trouvait à ce moment-là dans une situation dangereuse. Alors pour se blanchir, il avait inventé de faire du rouge et il avait demandé la création d'un tribunal révolutionnaire. Eh bien, Danton, maintenant, parce qu'il a aussi un peu peur de sa situation, Danton dit, oui, allez-y, la terreur, et il faut même une tête par jour. Eh bien, c'est vrai. Nous sommes confrontés à ce paysage tragique de la terreur. Et vous vous doutez bien que je ne suis pas favorable. Je trouve que Robespierre, là, dévie, va mal. Qu'est-ce qu'il fait? À quoi cède-t-il? Ben, vous savez, c'est Saint-Just qui lui souffle et qui lui dit, mais vous savez, il y a des tas de gens dont on n'obtiendra jamais la bonne volonté. Alors, si on n'obtient pas la bonne volonté, il faut procéder par l'effroi. Il faut intimider ceux qui veulent détruire la révolution. Ça ira très loin. Je dois dire que Robespierre n'est pas sanguinaire, puisque même il va essayer de s'opposer, je vous l'ai dit, à la mort de Babette, et que c'est lui qui va, le 3 octobre, sauver la vie à 61 parlementaires que l'on avait arrêtés, et que Amar, il est du comité de sûreté générale, voulait pousser à la guillotine, parce que Robespierre dit non. Ces gens ont simplement été des complices, plus ou moins avoués, des Girondins, mais je demande qu'on les laisse en prison et qu'on ne porte pas atteinte à leur vie. Reste que Robespierre est couvert de sang, c'est parfaitement vrai, mais reste aussi qu'un homme qui était un ennemi de la Révolution et qui s'appelait Joseph de Maistre, dans ses considérations sur la France, se posera ouvertement la question et se dira, si on n'avait pas conduit la politique française avec cette volonté de terreur, je me demande bien, disait l'ennemi de la Révolution, si la France eût été sauvée. Point. Alors Robespierre, qui est assez content de ce qui se produit, voit qu'on l'écoute, du moins partiellement. Il est tombé malade au lendemain de son 5 février. Ça va durer un mois pendant lequel il est chez lui. Et Saint-Just va profiter de cette maladie pour faire ce que Robespierre n'osait pas faire, c'est-à-dire liquider par la guillotine les deux factions. La faction des hébertistes, c'est-à-dire les ultras, et la faction des indulgents, c'est-à-dire la faction Danton. Les hébertistes vont passer à la guillotine à la mi-mars, et le 5 avril, le 5 avril 1994, Danton lui-même va avoir la tête coupée. Robespierre suit toujours son idée, et il va faire son deuxième temps, le deuxième temps où il explique le fond de sa pensée, et c'est son très fameux discours du 7 mai, plus exactement, du 18 Floréal, où carrément Robespierre va aller jusqu'à mettre en cause l'encyclopédie. Ce 18 Floréal, Robespierre va aller très loin puisqu'il va toucher à ce qu'on pourrait appeler l'Arche Sainte, parce que pour un certain nombre de gens, l'encyclopédie c'était intouchable. Et il va dire, d'abord le titre de son rapport c'est de la nécessité, sur le rapport des idées religieuses avec les principes républicains. Et il va dire, la secte encyclopédique, c'est le mot qu'il emploie, la secte encyclopédique, prononçait quelquefois des déclamations contre les despotes, et les encyclopédistes étaient pensionnés par les despotes. En effet, Voltaire était pensionné à la fois par Louis XV et par Frédéric II, et Diderot était pensionné, comme vous savez, par Catherine II. Ces habiles faisaient tantôt des livres contre la cour, et tantôt des dédicaces au roi, des discours pour les courtisans, des madrigaux pour les courtisanes. Et il va beaucoup plus loin, il va dire, mais enfin, voulez-vous réfléchir avec moi à la morale, à ce qui sort de Candide. Candide, le fameux petit texte, d'ailleurs très bien écrit et très habile de Voltaire. Et ben voilà, disait-il, et c'est tout à fait exact. C'est une philosophie qui érige l'égoïsme en système, qui regarde la société comme une guerre de ruse, le succès comme la règle du juste et de l'injuste, le monde comme le patrimoine des fripons adroits. Et il ajoute, voyez-vous ça, c'est de l'athéisme. Et vous dites qu'un peuple religieux ne peut pas être un peuple républicain, je vous dis précisément le contraire. Regardez bien le petit peuple est encore croyant, croyant même en certaines superstitions que moi je n'accepte pas. Mais il croit en Dieu, tandis que c'était la haute classe, c'était les riches qui étaient des athées. Par conséquent, j'appelle l'athéisme une marque d'aristocratisme. Et pourquoi ne pas croire en Dieu, puisque c'est un tel secours pour l'âme profonde, puisque c'est un contact avec une réalité, puisque c'est l'idée de Dieu qui donne un sens à la vie, et tout ce qu'il demande Dieu, c'est pas des prières, c'est pas des hosannas, c'est de faire sa volonté, et sa volonté c'est la justice. Seulement voilà, ce même jour, 18 Floréal, il va aller beaucoup trop loin, à mon sens, et il va faire voter, par une convention qui est dominée parce qu'elle a peur de lui, il va faire voter ce fameux article que vous savez, le peuple français reconnaît l'existence de l'être suprême et l'immortalité de l'âme. Eh bien, je ne marche pas. Et Jaurès non plus ne marche pas. Parce que quoi ? Ben, c'est une religion d'État. L'État n'a pas à s'occuper des consciences. Robespierre, qui vient de dire qu'il est pour la liberté de conscience, semble vouloir maintenant imposer, ou presque imposer, une certaine vue métaphysique. Ça n'est pas le rôle de l'État. Et là, Robespierre a fait, à mon avis, une profonde erreur, mais qui correspondait à son tempérament profond. Il se dit, il faut dire ça parce que c'est le salut humain même, le salut humain de cette collectivité pour laquelle je me suis dévoué. Alors on va préparer la grande fête, qui sera la fête du 8 juin 1994, qui est la fête de l'être suprême, et dont je voudrais vous dire deux mots. Il est de tradition d'en sourire en disant, c'est une blague, vous savez, c'est une chose qui était organisée par David, c'était du grandiose à la place de la grandeur, c'est pas vrai. J'ai vu un rapport là-dessus qui était très saisissant. Il est du petit Naudier qui avait 14 ans, je sais bien, facilement ébloui peut-être. Mais il en est resté bouleversé cette journée. Il est vrai que si le ciel, si l'on peut dire, était pour Robespierre, puisque c'était une journée splendide. Ce 8 juin, c'était magnifique, le soleil était radieux, il y avait une douce chaleur, il y avait quelque chose dans l'air qui était comme un bonheur répandu. La commune avait donné, par ordre du reste, des fleurs et des objets divers à la population pour qu'elle fasse des guirlandes. Des barques circulaient sur la Seine qui étaient toutes décorées. Et puis on avait organisé aussi tous les quarts d'heure des trompettes de cavalerie qui sonnaient dans les carrefours. Il y avait des volées de coups de canon qui n'étaient pas cette fois des canons révolutionnaires, mais des canons en l'honneur de Dieu. Et puis il y avait, c'était une chose assez saisissante, on avait dit aussi que tous les quarts d'heure, toutes les cloches de Paris, y compris le bourdon de Notre-Dame, sonneraient à toute volée. Si bien que ça donnait à tous les gens le sentiment d'une espèce de fête Dieu inouïe. C'était pas la fête Dieu, mais c'était en secret. Vous savez, beaucoup de gens le savaient, mais Robespierre ne l'avait pas dit. C'est en secret, ce 8 juin, c'est-à-dire le cycle pluriel, ce 8 juin, qu'est-ce que c'était dans l'ancien calendrier ? Eh bien, c'était la fête de la Pentecôte. Et Robespierre se disait de même qu'à la Pentecôte, soi-disant, selon la légende, des langues de feu sont venues sur la tête des apôtres. Je veux, moi, essayer de dire à tout le monde, à travers la France, à travers Paris, d'abord, dire à tout le monde que cette connaissance de Dieu nous aidera à faire la République. Vous savez, c'est ce qui me touche beaucoup dans ce discours de Robespierre, c'est que c'est la première fois, à mon sens, la première fois, qu'un gouvernant parlait de Dieu au peuple pour autre chose que pour le duper et pour la servir. C'était pour le servir, au contraire. Seulement, Robespierre était si content. Naudier dit, vous savez, il était méconnaissable. C'est Robespierre qui était d'habitude assez palot et avec figure froncée, avec des tics nerveux dans le cou et dans les épaules. Jure-là, il était transfiguré. Il marchait en tête de la convention. Il se trouvait par hasard être le président. C'était par quinzaine. Il avait un énorme bouquet de fleurs tricolores que lui avait donné Éléonore Duplay, une des filles de Duplay, qui était amoureuse en vain de lui. Et il était transfiguré. Il avait un sourire épanoui sur le visage. Ce sourire va brusquement disparaître. À peine a-t-il prononcé son discours au Champ de Mars, parce que des hurlements, vous entendez bien, des hurlements partent de la convention. On avait obligé la convention incorporée, comme quand elle était allée à Notre-Dame de Paris, à assister à la fête de l'être suprême. Ils piétinaient tous là derrière, et il y avait des quantités de gens, en particulier dans la plaine, qui étaient des voltairiens, qui étaient agacés par ce que faisait Robespierre. Alors était parti contre lui, des vociférations, vous savez, Fouché se vantera plus tard, mais je lui ai dit en face que ce Robespierre, on en avait par-dessus la tête, il voulait se faire bon Dieu, il voulait nous ramener son bon Dieu, mais lui-même voulait se présenter comme le nouveau Messie. Et puis on avait crié aussi, ah, tu sais, Robespierre, la Roche Tarpeyenne, elle est pas loin du Capitole, on t'aura bientôt. Ça avait été un tel coup pour lui de sentir cette violence qu'il était revenu tout triste, tout à fait transfiguré, avec le sentiment que c'était raté. Et deux jours plus tard, le voilà qui va organiser une loi terrible, la loi du 22 Prairial, qui simplifie d'une manière vraiment excessive et presque monstrueuse les procédures de juridiction. Il n'y aura plus besoin de témoins maintenant pour condamner quelqu'un, une simple contrôle d'identité. Les preuves matérielles ne sont pas nécessaires, les preuves morales suffiront. Enfin, il y avait de quoi tuer tout le monde. Nous savons très bien ce qu'il voulait faire. Il voulait intimider 4 ou 5 personnages, et particulièrement Fouché. Fouché qui se conduisait tellement mal, il avait repris Lyon, c'est entendu, il faisait des représailles monstrueuses, mais Fouché avait tourné Kazakh et maintenant il persécutait les républicains ultra. Alors Robespierre voudrait utiliser posément cette loi du 22 Prairial, mais c'est un argument qu'il va donner contre lui. Il va nous dire, le 26 juillet, lorsqu'il reprendra la parole pour la première fois, il va nous dire, j'ai signé mon arrêt de mort, quoi. J'ai signé mon arrêt de mort avec la fête de l'être suprême. J'ai compris qu'à partir de ce jour-là, on était décidé à m'abattre. Il a parfaitement vrai, parce qu'une conjuration va se former contre lui. Quelle conjuration? Eh bien, il y a d'abord les représentants en mission rappelés. Vous savez, ces représentants en mission, ils avaient tout pouvoir et quelquefois ils se conduisaient très mal. Tallien, par exemple, Tallien à Bordeaux, il arrêtait des gens puissants, puis il les convoquait, il disait, écoutez, je vous relâche, mais à condition de vous mettiez sur ma table une enveloppe, parce qu'il bien garni. Il était poussé par sa maîtresse Thérèse Cabarrus, et qui était très avide, et il a fait une fortune. Puis il y avait Carrier, vous savez, Carrier à Nantes, avec les doyennes de Nantes, ça n'avait pas été très beau. Et puis il y avait un type comme Dumont. C'est André Dumont, quoi. Enfin, Dumont, qui était représentant à mission dans le Nord, et qui avait annoncé, j'ai fait une fauchaison de toutes les croix, j'ai fait disparaître tous les emblèmes religieux, et bientôt je ferai disparaître aussi ces animaux noirs appelés prêtres. Robespierre avait estimé qu'il allait un peu fort. Alors on avait rappelé un certain nombre de ces représentants à mission, et ils étaient furieux. Deuxièmement, et attention, ça c'est du Buonarroti. Buonarroti, c'est un député de la Corse, conventionnel de Corse, qui était d'abord au début contre Robespierre, puis qui passera du côté de Babeuf, vous savez, Babeuf 95. Il y a une note laissée par Buonarroti qui dit, il y a eu contre Robespierre une conjuration à la fois des pillards, enfin des voleurs, quoi, et des voltairiens. C'est vrai, il y a des voltairiens. La preuve, c'est que quelques jours après le 8 juin, c'est-à-dire le 15 juin, un membre du comité de surveillance générale qui s'appelle Vadier va monter à la tribune de la convention. Il obtiendra un très grand succès parce qu'il raconte une histoire concernant une folle de la rue de la Contrescarpe qui s'appelle Catherine Théo. Et il dit, elle se fait appeler la mère de Dieu et annonce qu'il y a un nouveau Messie. Vous savez, elle a plus de 60 ans, mais elle dit quand même qu'elle est la mère de Dieu et que viendra un nouveau Messie. Et il fait rire tout le monde et avec une arrière-pensée parce qu'il sait que dans les disciple de cette espèce de demi-folle qui est une brave fille, mais un peu piquée. Et il y a une parente des Duplay. Les Duplay, c'est là où Robespierre habite. Il sait aussi que un des adjoints de cette Catherine Théo s'appelle le Don Gerle. C'est un ancien bénédictin qui s'est déprétrisé. Et c'est Robespierre qui a fait donner un certificat de civisme à Don Gerle. Don Gerle. Par conséquent, lorsque Vadier dit, la mère de Dieu annonce un nouveau Messie, on fait courir à vos bases dans les rangs de la plaine, enfin de l'assemblée, qui s'appelle le ventre ou le marais, comme vous voudrez. La plaine, le ventre, oui. On leur fait courir le bruit, vous savez. La mère de Dieu, elle annonce la venue du nouveau Messie, qui est Robespierre. Et Robespierre sait très bien ce qui se passe contre lui. Il en est découragé. Vous savez qu'il va se retirer, on ne le sait pas assez, il va se retirer pratiquement du gouvernement. On n'a jamais fixé exactement, on n'a pas pu fixer la date, mais le 27 février, quand on... le décret d'arrestation, c'est Barrère qui va dire, mais il y a 4 décades qui n'a pas paru au gouvernement. Lui dira 6 semaines, parce qu'il garde l'ancien vocabulaire. 6 semaines, 4 décades, ça fait environ 40 jours. Par conséquent, c'est presque tout de suite après l'incident du 15 juin, l'incident Vadier du 15 juin et de la mère de Dieu, qui décide de ne plus faire partie du gouvernement. Et c'est vrai, il va passer le matin au comité de la République, un instant, juste un instant, pour signer comme ça quelques arrêtés, sans... et puis il s'en va. Je ne veux plus participer, dit-il, à un gouvernement où je me suis rendu compte que j'étais incapable de faire le bien et incapable d'empêcher le mal. J'ai oublié de vous dire que Michelet, qui déteste Robespierre, Michelet a raconté avec une espèce d'enthousiasme l'incident d'Adier, l'incident de la mère de Dieu. Michelet a dit, on se tordait sur les bancs de la Convention. La suite encore plus belle. Rire immense, rire sacré. Enfin Voltaire ressuscite, béni sois-tu, bon revenant. Eh bien, le bon revenant a décidé de venir à bout de Robespierre et on y va. Alors, je viens de vous dire la conjuration. Premièrement, les députés rappelés. Deuxièmement, tous les voltairiens. Troisièmement, et ça, j'y tiens beaucoup parce qu'on ne le dit pas, Carnot. Lorsque je vous racontais il y a un instant qu'il a fait entrer au comité de salut public deux extrémistes, qui étaient Claude Verbois et Billaud-Varenne, c'était en septembre, il faut savoir que Robespierre, procédant ainsi, essayait de compenser deux nominations que l'on avait fait malgré lui au comité de salut public au mois d'août. C'était la nomination de Carnot et de son ombre qui s'appelait prieur de la Côte d'Or, pour le distinguer d'un prieur de la Marne qui lui était à gauche. Carnot est le fils d'un notaire. Ça dit quelque chose, ça. Vous savez, Carnot n'est pas un homme qui envisagerait volontiers des limites au droit de la propriété comme Robespierre a eu le culot de le proposer. Et surtout, voilà que Robespierre avait dit, on ne traitera pas avec l'ennemi tant qu'il y aura un soldat étranger sur le sol de France. Depuis Fleurus, Fleurus c'était 27 juin, depuis Fleurus, qui est une victoire remportée près des frontières de la Belgique, il n'y a plus un étranger sur le sol de France. Et Robespierre dit, ah ben, c'est maintenant qu'il faut faire la paix. Ils sont tous partis, et cette guerre nous coûte terriblement cher. Carnot est hors de lui, parce que enfin, la guerre rapporte, vous savez. Cette guerre qui était faite pour une guerre de razzia, vous savez, qui était l'idée de Narbonne et des Girondins, prendre le bien d'Auteuil, prendre les biens des Belges et les biens de la Rhénanie, ça marche maintenant. On a même organisé en Rhénanie ce qu'on appelle les agences d'évacuation. Et je voudrais vous rappeler deux dépêches que j'ai sous les yeux, dans la tête, deux dépêches de Carnot. L'une s'adressait à Pichegru, où il lui dit, vous êtes en Belgique, prenez tout. Il faut vider le pays, vous entendez, c'est ça, prenez tout, il faut vider le pays. Et puis aux représentants du peuple qui sont dans l'armée de la Moselle, montrez à vos soldats les richesses de l'Allemagne. Mais vous savez, c'est déjà ce que va raconter Bonaparte le 10 avril 96, lorsqu'il est à la tête de l'armée des Alpes, et qui dit, soldats, vous êtes mal vécus, vous êtes mal chaussés, mais regardez les plaines de Lombardie, regardez ces villes qui sont bientôt à votre pouvoir. Pas question ni de la patrie, ni de l'honneur, rien du tout, simplement le pillage. Eh bien, c'est ça la politique de Carnot. Alors quand Carnot voit un Robespierre qui dit, il faut faire la paix, il dit, surtout pas. Alors le moyen qu'on va trouver pour aller contre lui, ben, c'est bien facile, vous savez. Jusqu'à présent, le ventre, le centre, quoi, composé de ces grands notables que vous savez, ils font tous le gros dos. Ils ont tous considéré que le dissout était comme une espèce de parenthèse scandaleuse ouverte dans la Révolution. Quand je vous ai dit que le dissout était pour moi la Révolution, sérieuse, la Révolution, pour de bon, mais c'est une idée terrifiante pour ces grands notables, pour ces gens installés, pour ces gens puissants, qui sont la majorité de la Convention. Ils n'osent pas bouger parce qu'ils savent, ou ils croient savoir, que Robespierre a derrière lui tous les faubourgs. Et que s'il lève le petit doigt, les faubourgs vont déferler, comme ils ont fait, c'est vrai, le 30 mai et le 2 juin contre la Convention. Alors ils bougent pas. Mais l'idée admirable de Fouché et des conjurés, c'est d'ôter, dans toute la mesure du possible, à Robespierre cet appui plébéien, cet appui populaire. Alors ils vont faire deux choses. Ils vont s'emparer d'abord de la loi du 22 prairial, terrible, je vous l'ai dit, hein, cette loi presque inadmissible qui simplifiait à l'extrême la procédure du tribunal révolutionnaire, et ils vont rendre la guillotine folle, réellement folle. Écoutez bien les chiffres. Le 17 juin, ils vont faire passer d'un seul coup 54 personnes à la guillotine, tous revêtus de la chemise rouge. Et la chemise rouge, qui était en réalité un lambeau de serge rouge qu'on leur mettait sur les épaules, est réservée aux parricides. Et puisqu'il s'agissait de un monsieur et une femme, un homme et l'admira et une fille qui s'appelait Cécile Renaud, qui étaient accusés d'avoir voulu tuer Robespierre, on fera courir le bruit que Robespierre a exigé que l'on fasse tuer 54 personnes revêtues de la chemise rouge parce qu'on a songé à un attentat contre lui. C'est complètement faux. Robespierre n'a rien désiré de pareil. C'est une absurdité de répondre. Mais c'est très utile de faire croire que si la guillotine devient terrifiante, si elle abat toutes sortes de têtes, et en particulier des têtes de petites gens, des têtes de plébéiens, qui sont accusés d'avoir mal parlé de la République. Il paraît que tel concierge ou tel porteur d'eau a dit « Ah ben sous le roi, on vivait mieux. » Évidemment, on va les tuer. En disant à tout le monde « Que voulez-vous ? C'est Robespierre qui le veut. » Alors je vais vous donner un chiffre. Depuis l'établissement du comité du tribunal révolutionnaire, c'est-à-dire
c'est-à-dire le 10 mars 93, jusqu'à maintenant, il y avait eu un peu plus de 1200 exécutions. Vous me suivez? Un peu plus de 1200 en 15 mois. En 40 jours, il y aura plus de 1300 exécutions. Plus de 1300. Une guillotine formidable, furieuse, frénétique, dont on répète, c'est Robespierre qui le veut. Or, il n'y est pour rien, puisque maintenant il ne va plus au comité de salut public. Alors là, Lamartine aura une phrase admirable dans son histoire des Girondins. Je vais vous la citer lentement parce qu'elle va très loin. Pendant 40 jours, ils le couvrirent du sang qu'il versait pour le perdre. Pour ôter à Robespierre son appui populaire, je viens de vous le dire, on fait des arrestations et des exécutions de petites gens. Mais on fait mieux. Au début de Thermidor, voilà que le comité de salut public, où Robespierre ne va plus, décide un nouveau maximum. Mais attention, cette fois c'est un maximum des salaires, avec une diminution considérable des salaires. Il y avait en particulier à Paris une usine nationale, la seule, une usine d'armes qui n'était pas privée, qui était nationalisée. Et on va faire tomber de 30%, vous m'entendez, de 30%, le salaire des ouvriers qui travaillent à ces usines-là. Alors tous les autres suivent avec joie. Et si bien que, dans le peuple, on va commencer à dire, foutu maximum, ah, on vous répond, vous savez, c'est pas notre faute, c'est Robespierre, puisqu'on fait croire à tout le monde que ce Robespierre, qui ne vient plus au pouvoir, est tout puissant. Alors ça va, on a l'impression qu'on le tient, quoi. Et qu'est-ce qu'il fait Robespierre, puisque maintenant, bon, il va de temps en temps aux Girondins, mais il ne va plus, mais il ne fait plus son métier. Eh bien, je sais, parce que j'ai vu des rapports de police sur lui, que, profitant de cet été admirable, le temps est toujours splendide, il va beaucoup à la campagne. Il sort accompagné de son chien. Il avait un grand chien qui s'appelait Brunt. Et des rapports de police nous le montrent plusieurs fois qu'il est assis sur une prairie qui est en pente du côté de la Seine, qui donne sur la Seine, à la corne d'un bois, à la corne d'un bois, dit un des textes que j'ai lus. Et là, c'est un Robespierre qui réfléchit, qui médite. Est-ce que nous pouvons deviner sa vie intérieure? Mais oui, on peut, on peut. Vous savez, longtemps j'avais cru que l'être suprême, c'était quelque chose comme une abstraction d'utilité publique. C'est pas vrai. Vous savez que Pascal disait qu'il n'acceptait pas, qu'il trouvait détestable le déisme. Le déisme, c'est froid, dit-il. Moi, je suis pour le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ. Mais Robespierre aussi. Robespierre est un homme qui vit dans une ferveur dont nous ne doutions pas et qui m'a été révélée par divers documents. Par exemple, Elisabeth Duplay, qui a épousé Lebas, le conventionnel Lebas, qui est un robespierriste pur, racontera dans un texte qui n'a été publié, je crois qu'en 1911, que de fois, vous entendez, que de fois, et non pas parfois, que de fois, Robespierre me prenait par le bras et me disait, mais mon petit, c'est tu manques de ferveur, et c'est la seule chance d'être heureux dans la vie, la ferveur. Et puis il y a un touriste allemand qui nous a fait une vraie révélation dans un texte de 91-15, où ce touriste allemand qui est venu comme ça pour s'informer a demandé où vivait Robespierre. On lui a montré la maison de ce monsieur Duplay qui est un artisan ébéniste. Et les gens, les voisins, ont dit à ce touriste allemand qui l'a soigneusement noté, on est très religieux chez les Duplay, on fait la prière avant tous les repas. Et c'est Robespierre qui fait la prière. Alors je comprends mieux pourquoi Danton, éclatant de rire, avait dit « Robespierre, il habite dans une jésuitière ». Robespierre est un homme qui croit profondément en Dieu, un homme qui vit dans sa pensée et qui peut se retirer, quels que soient les drames de sa vie extérieure, se retirer dans une espèce de zone secrète de confiance et de sérénité. C'est ce monde-là qu'il habite lorsque le 26 juillet 94, il va reparaître subitement à la tribune de la Convention. Pourquoi ? Un très curieux discours, un discours qui est à la fois un défi et un testament. Il dit, c'est vrai, je me suis retiré parce que je savais que j'étais incapable de travailler. Et puis j'en ai assez, dit-il, j'en ai assez de vivre dans un monde où la justice n'est qu'un mensonge, où l'intrigue triomphe toujours de la vérité. Et se tournant vers Fouché, qui est là parce qu'il sait ce que fait Fouché contre lui, il sait que Fouché, quand il était à Nevers, a arraché tous les emblèmes religieux, a fait inscrire à la porte des cimetières, ici est le repos et le sommeil éternel, il lui dit en le regardant et peut-être en le désignant du doigt, non Fouché, non, ce n'est pas vrai, la mort n'est pas un sommeil éternel. La mort, c'est l'entrée dans l'immortalité. Robespierre sait très bien que disant des choses pareilles et demandant que l'on modifie profondément la structure du comité de salut public comme du comité de sûreté générale, il sait qu'il risque tout. Bon, et bien le soir, il recommence son discours aux Girondins, il est applaudi, et le lendemain, ça sera le 27 juillet, Saint-Just doit prendre la parole pour défendre le discours de Robespierre, et vous savez ce qui va se passer, c'est pas la peine d'insister, on coupe la parole à Saint-Just, on va décider à l'unanimité que Robespierre va être arrêté. Robespierre est en effet arrêté, il est libéré, il refuse d'aller à la commune, parce qu'on lui parle d'insurrection. Il dit, mais c'est pas la peine, c'est raté, c'est tout à fait inutile. Et du reste, vous savez, tellement peu de gens sont venus le soutenir. Il y a 48 sections dans Paris, ben il y en a à peine 20 qui ont envoyé des hommes pour le défendre. Il dit, maintenant si, c'est fini, c'est perdu. La Convention a décidé de maintenant qu'il était mis hors la loi. Hors la loi, ça veut dire qu'on peut l'abattre à vue. Alors il dit, mais c'est fini, quoi, c'est terminé. Alors c'est au moment où les gens qui avaient voulu, qui avaient essayé de le soutenir, se sont dispersés. Il n'y a plus personne devant l'hôtel de ville, c'est 2h30 du matin. C'est à ce moment-là qu'entre Léonard Bourdon, qui conduit une équipe de gendarmes, à la tête duquel se trouve un gendarme, c'est pas sa faute, qui s'appelait Merda. Et c'est là que le coup de revolver est tiré, le coup de pistolet. Vous savez, je comprends pas qu'on puisse encore aujourd'hui discuter pour savoir si Robespierre s'est suicidé ou si elle a été victime d'un coup de pistolet. Il n'y a qu'à regarder le témoignage des médecins. Ils ont dit, la balle est entrée par la joue droite, a traversé la bouche et a fracassé la mâchoire gauche. Quand on veut se suicider, c'est pas comme ça qu'on procède. C'est probablement, il a vu ce pistolet dirigé contre lui, il s'est défendu vaguement et le coup, au lieu de l'atteindre dans le visage, l'a atteint au bas du visage. C'est à 2h30 qu'il a la mâchoire cassée. Alors on le transporte dans l'antichambre du comité de salut public. C'est un Robespierre aux outrages. Il est étalé sur une table. Il a du sang qui lui coule de la bouche. Il peut pas parler. On a mis des feuilles de papier à côté de lui. Alors il se sert de ces feuilles de papier pour étancher le sang. Les chirurgiens ne viennent qu'à 6h. De 2h30 à 6h, il a été là à souffrir sa mâchoire cassée. Les chirurgiens, j'ai lu le rapport, disent nous lui avons arraché quelques dents, lui avons enlevé quelques morceaux d'os. Il a dû beaucoup souffrir, mais nous devons dire qu'il n'a pas poussé un seul gémissement. Et ils ajoutaient, pendant qu'on le travaillait, il gardait obstinément les yeux au plafond. J'ai dit dans mon livre, risquant une image, que si Robespierre avait les yeux au plafond, je ne suis pas persuadé qu'il était fasciné par les moulures du plâtre. Toujours est-il qu'on va le faire passer à la guillotine le lendemain. Ce sera la grande fiesta de la guillotine. Figurez-vous qu'en 2 jours, on va tuer plus de 100 personnes, tous les Robespierristes, tous les gens dangereux. Et la signification du 9 Thermidor, mais qu'est-ce que c'est? Vous savez, c'est le triomphe des installés. C'est le triomphe des nouveaux nantis. Le deuxième temps, pour tout achever, ça sera le 18 Brumaire, quand Bonaparte détruira la République, et quand on verra un homme comme Necker dire « Mais bravo Bonaparte, il n'y a plus maintenant qu'un simulacre de la République, et les propriétaires vont beaucoup gagner en force et en droit. » Bravo. Robespierre est un homme qui avait pris au sérieux ce que dira, bien longtemps après lui, Péguy. Péguy disant « La mystique républicaine, c'est quand on se fait tuer pour la République. » Robespierre est quelqu'un qui s'est fait tuer pour la République telle qu'il la concevait. Une République où toutes les armes s'agrandiront. Et avec le 18 Brumaire, ce sera l'initiative de ce triomphe de l'argent qui va durer des décennies et dont je ne suis pas sûr qu'il soit aujourd'hui terminé. »